Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle matinale week-end où nous serons encore très présents en Angleterre et en Écosse pour les funérailles d'Elisabeth II et sa succession qui se dessine. Charles III est désormais roi d'Angleterre. Nos envoyés spéciaux interviendront dans les journaux chaque demi-heure. Clin d'œil à cette actualité également. Philippe Legrand qui recevra Pétula Clark, très attachée à sa reine. Et puis vos rendez-vous habituels, ça vous concerne. Roland Pérez, Valérie Darmon éclaire notre lanterne sur des questions juridiques ou du quotidien. On parlera de contrats de gaz et de tickets resto ce matin. Notre balade du dimanche nous emmènera du côté d'Annecy et Olivier Pouls nous aidera à cuisiner des figues et puis des plagiats. En veux-tu en voilà avec Mathieu Alterman. Côté actu, mon premier invité ce matin, Kevin Guillot, fondateur du site Monarchie Britannique après la ruée sur les objets à l'effigie de la reine. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir là. Et merci d'écouter Europe 1. Il est 6h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. L'avènement du nouveau roi Charles III n'efface pas la peine des Britanniques. Ils sont toujours aussi nombreux à rendre hommage à la reine, y compris ceux qui vivent en France.
En France, toujours, Éric Ciotti et Éric Zemmour font leur rentrée politique ce week-end, alors que la nupe tire à boulet rouge sur le communiste Fabien Roussel.
Et puis après Superman, voici Triman, un nouveau petit logo qui va vous aider à mieux trier vos déchets.
À suivre, après le journal, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Longchamp. Et puis les conséquences inattendues de la mort d'Elisabeth II. Kevin Guillot, fondateur du site Monarchie Britannique, voit ses ventes de produits dérivés exploser. Ce sera l'interview conso de ce matin. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien, c'est une très belle journée à venir dès la dissipation des nuages matinaux sur le nord de la France et grosse hausse des températures maximales, notamment dans le sud-ouest.
Et on vous retrouve à la fin du journal. Clotilde, on connaît donc la date des funérailles d'Elisabeth II.
Ce sera lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster en fin de matinée, jour férié pour les Britanniques qui ont donc encore une semaine pour dire au revoir à leur souveraine. Près de Buckingham, dans un parc royal à Londres, des milliers d'anonymes continuent de déposer des fleurs 3 jours après le décès de leur reine. Reportage sur place de Lionel Gougelot.
L'affluence est telle qu'il faut canaliser la foule. À l'entrée du parc, on retire le plastique, des bouquets de fleurs, et des familles, des enfants, des personnes âgées viennent grossir ces rangées multicolores qui s'étalent sur l'herbe et sous les arbres de Green Park. Spectacle saisissant pour Claire et Kathleen qui viennent de déposer un bouquet et un mot de condoléance.
C'est une superbe idée, c'est merveilleux de voir toutes ces couleurs, ces messages, les gens rassemblés qui expriment leur amour.
C'est si beau, tellement agréable pour les gens de venir et de voir toutes ces fleurs. Bien sûr, c'est dommage, elles seront perdues, mais voyez-vous, je crois que c'est la seule chose que nous pouvons tous faire.
Et malgré l'avènement de Charles III en cette journée historique pour le royaume, les sujets britanniques comme Keith continuent de vivre dans le souvenir d'Elisabeth.
C'est incroyable. On voit ici toute la nation en deuil. Et c'est très émouvant quand vous voyez ces incroyables tapis de fleurs et ces hommages à la reine. Je suis très fier d'y participer.
Un recueillement et des hommages qui se poursuivront toute la semaine jusqu'aux funérailles le lundi 19 septembre. Londres, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pour l'instant, le cercueil de la reine est toujours en Écosse, à Balmoral. Il va être transporté à Édimbourg dans la journée et devrait arriver à Londres en début de semaine prochaine.
Et alors que Charles III a officiellement été proclamé roi, la disparition d'Elisabeth II continue d'attrister le monde entier.
De nombreux dirigeants internationaux sont attendus aux funérailles de la reine. Et un peu partout dans le monde, les hommages se multiplient, comme en Belgique, où le mariage d'une nièce du roi Philippe a été marqué hier par un moment de prière et de recueillement à la mémoire d'Elisabeth II. En France aussi, la mort de la souveraine a notamment ému la commune de Gouarec dans les Côtes d'Armor, où vivent de nombreux Britanniques. Reportage de Charles Guyard.
Dans le centre-ville, face aux halles du marché, l'épicerie anglaise d'Aurore voit défiler de nombreux Français depuis jeudi. Tous viennent présenter leurs condoléances.
J'ai vu beaucoup de clients français venir ici pour expliquer c'est désolé pour les Anglais ici.
Avec le décès de la reine, c'est en effet tout Gouarec qui partage le deuil, comme l'a aussi constaté Chayla.
Et nos voisins français, ils m'envoyaient les SMS à dire « Nous sommes très très tristes pour vous ». C'est comme le décès d'un parent.
Il faut dire qu'avec plus d'une centaine de Britanniques sur un millier d'habitants, ans, la commune vit quasiment à l'heure anglaise depuis des années, le maire Jérôme Lejard.
C'est vrai que les Britanniques ont toujours été là pour la France. Quand on peut rendre hommage, oui, il y a les deux hymnes qui sont faits, God Save the King maintenant, hein, donc on changera le disque.
En attendant, pas de musique, c'est plutôt un temps de recueillement qui devrait ouvrir le prochain conseil en mairie.
Il va y avoir une minute de silence lors du prochain conseil municipal, lundi, en respect et en hommage. Ouais.
Et voilà comment ici, au cœur des Côtes d'Armor, la reine Elisabeth sera bel et bien honorée par toute une ville. Guarec, Charles Guyard, Europe 1.
Emmanuel Macron s'est pour la première fois entretenu avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss, le président français qui a de nouveau adressé ses condoléances. Il a aussi rappelé son souhait de coopérer étroitement avec le Royaume-Uni, notamment sur les prix de l'énergie et pour soutenir l'Ukraine.
Dans le reste de l'actualité, Clotilde, sur la scène politique française justement, Éric Ciotti a fait sa rentrée hier.
Sur ses terres, à Levant, dans les Alpes-Maritimes, 4000 personnes sont venues soutenir le candidat à la présidence des Républicains, Alexandre Chauveau.
Son entrée sur scène résume l'envergure prise par Éric Ciotti en à peine un an. 2000 personnes rassemblées l'an dernier, le double hier soir, favorable au traitement de choc prôné par le docteur Ciotti pour les Républicains.
Pour un malade en réanimation, certains prônaient de l'homéopathie. Eh bien moi je dis aujourd'hui, il faut une thérapie de choc en portant un vrai projet de rupture.
Éric Ciotti joue à domicile devant les élus et soutiens de sa région comme une réponse aux critiques qui le disent incapable de rassembler.
Ce qu'on a fait dans les Alpes-Maritimes, une union qui nous a permis d'amener 5 députés sur 9 à l'Assemblée nationale, je veux le transposer pour notre famille politique.
En course pour la présidence de LR, le Niçois veut déjouer les pronostics. Il compte pour cela sur sa Fédération des Alpes-Maritimes, la deuxième plus puissante des Républicains, mais lance un appel à tous les électeurs.
Le résultat à l'élection présidentielle avait beaucoup déçu, beaucoup de nos militants. Il faut qu'ils reviennent, mais il faut que d'autres y adhèrent, d'où qu'ils viennent.
Clin d'œil entre autres à tous ceux qui ont privilégié Éric Zemmour à Valérie Pécresse en avril dernier. Épreuve de l'importance du nombre de cartes pour ce scrutin, le petit papier glissé hier soir sous chaque assiette, un bulletin d'adhésion aux Républicains.
Un reportage d'Alexandre Chauveau. De son côté, Éric Zemmour prononcera aussi son discours de rentrée cet après-midi dans le Var. Et puis à gauche, la NUP n'a pas loupé Fabien Roussel à la fête de l'UMA. Les socialistes et les insoumis ont critiqué la déclaration du communiste qui s'est dit en faveur d'une gauche du travail et pas des allocs.
6h07 sur Europe 1. Un nouveau logo obligatoire sur tous les emballages depuis vendredi, le Triman.
Et un petit bonhomme noir dans un cercle avec trois flèches dirigées vers l'extérieur. Alors il n'est pas encore forcément affiché partout puisque que les marques ont 6 mois pour écouler les stocks qui ne le mentionnent pas. Mais elles n'ont plus le droit de produire des emballages sans ce fameux Triman estampillé. Alors à quoi sert-il concrètement, Louise Salé, ce nouveau logo ?
Et bien sûr, chaque produit où il est dessiné, l'emballage doit être recyclé, c'est-à-dire jeté dans la poubelle jaune. Alors oui, hein, il existe déjà des pictogrammes pour nous guider, mais jusqu'ici, ces logos n'étaient pas tous uniformisés et certains prêtaient à confusion. Un exemple, ce petit rond avec deux flèches vertes ne veut pas du tout dire que l'on peut recycler le produit. Il indique seulement que l'entreprise qui le commercialise participe financièrement à la collecte de son emballage. Désormais donc, avec Triman, ces dessins trompeurs sont voués à disparaître et seul ce pictogramme certifiera que le produit est recyclable, l'objectif étant de simplifier le geste de tri. 4 Français sur 5 ont en effet des doutes sur la bonne poubelle dans laquelle il convient de jeter un objet. C'est l'organisme Citeo qui aide les entreprises à recycler qui a réalisé cette enquête. Conséquence, le taux de recyclage du plastique, par exemple, n'est que de 30%.
Les précisions de Louise Salé.
Allez, les sports avec la victoire de l'OM à domicile hier.
2-1 face à Lille. Les Marseillais qui se rassurent après leur défaite en Ligue des Champions cette semaine. Quelques jours avant de recevoir Francfort, le milieu de terrain Matteo Guendouzi se dit optimiste pour la suite.
Oui, je trouve que voilà, depuis le début de saison, on n'a pas concédé beaucoup de buts en Ligue 1. Donc c'est vraiment très intéressant. On a réussi à mettre quand même beaucoup d'intensité encore ce soir. On est allé gratter pas mal de ballons hauts. Et voilà, je trouve qu'on fait un très bon début de saison. Il y a vraiment de choses très intéressantes. Même avec la défaite en Ligue des Champions contre Tottenham, il y a eu une très bonne première mi-temps. Donc on sait aussi qu'on est capable de faire de très bonnes choses contre de très grandes équipes. Donc voilà, il y a vraiment de très bonnes choses pour la suite des championnats. On a quand même un très bel effectif cette saison. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir enchaîner beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité comme on l'a fait sur les matchs depuis le début de saison.
L'OM qui partage donc la première place du championnat avec le PSG, également vainqueur face à Brest hier, à suivre notamment aujourd'hui Monaco-Lyon à 20h45.
Merci Clotilde Dumais, à tout à l'heure.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon, on va avoir une belle journée. Hein.
Ah oui, au nord, c'est-à-dire depuis le Pays Nantais jusqu'en plaine d'Alsace, ce matin, vous êtes toujours un petit peu dans la brume, mais elle va s'estomper rapidement. Les bancs de brouillard de la région parisienne et Hauts-de-France vont être un tout petit peu plus lents à s'effacer. Et puis sur le reste de la France, le soleil va se montrer très très généreux. La journée va se dérouler sous un ciel très dégagé, à peine voilé, sur des bancs de nuages élevés. Le seul bémol cet après-midi, c'est de tout petits cumulus qui bourgeonnent sur le relief des Alpes et un orage isolé sur les Pyrénées catalanes. Sinon, c'est grand beau depuis ce matin jusqu'à ce soir.
Avec de belles températures également.
Oui, alors actuellement 22 à Toulon, 19 à Nice, 18 à Marignane, 17 à Perpignan, 16 à Nîmes et à Toulouse, 15 à Brest, 14 à Mulhouse, 13 à Lille, 12 à Paris, 11 à Caen et des maximales qui vont amorcer une nette hausse. Donc gros contraste entre ce matin et cet après-midi avec des valeurs entre 22 et 28 sur la moitié nord de la France, 28 à 30 sur le sud et jusqu'à 35 à l'ombre et sous-abri en Nouvelle-Aquitaine.
Merci Valérie. Dans un instant, bien fait pour vous. Et à 6h20, on reste au plus près de l'actu. Tasse, coussin, porte-clés. Les souvenirs de la reine Elisabeth II s'arrachent. On en parle avec Kevin Guillot. Mais avant cela, on prend un papier, un crayon pour les pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les naïcs, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce quintet à handicap sur la distance de 1400 mètres qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 16 ayant déclaré forfait. Deuxième de cette même épreuve l'an dernier, Torpen, le numéro 11, me semble être un très bon favori. Il retrouve cet après-midi l'hippodrome de Longchamp, une piste qu'il connaît sur le bout de ses sabots. Dès lors, sa place est à coup sûr dans les 5 premiers. L'opposition sera constituée par les numéros 3, mon ami l'Écossais, expérimenté à ce niveau et sachant finir ses courses, 8 Milfield, 4e de l'édition 2019, puis 3e en 2020 et toujours aussi vaillant malgré ses 9 ans et 10 essais transformés, certes absent depuis le 14 juillet, mais attention, je le sais en parfaite condition physique le matin à l'entraînement. Enfin les numéros 7 Ozan, 6 Be My Day, 14 Brave Heart et 15 Chicho Boy peuvent, comme beaucoup d'autres, compléter la combinaison gagnante de ce quintet, agrémenté cet après-midi d'une tirelire exceptionnelle d'€1 million. Mon pronostic, 11, 3, 8, 10, 7, 6, 14 et 15.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et à 6h12, les meilleurs moments de Bienfait pour vous, c'est tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez, Julia Vignali qui nous parle de la nécessité ce matin d'être câlinée, d'être caressée. On se réveille en douceur. Alors Véronique, pour bien comprendre la force de la caresse, qu'est-ce qui se passe dans notre corps au moment où on se fait toucher? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des hormones qui sont stimulées?
Vous avez parfaitement raison, oui, il y a des réactions chimiques. Notre cerveau est inondé d'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir.
Je vais vous donner un shoot, Julia. J'adore. Mais moi, ça,
de neuromédiateurs comme la dopamine, l'envie du plaisir. Votre pouls se ralentit, vous êtes déstressé, le cirque de cortisol qui est vraiment le médiateur de l'angoisse va s'apaiser, votre tension va diminuer et vous allez être feel good. Vous allez être inondé de ça. D'ailleurs, on le sait, c'est magique. Il suffit d'être caressé et tout de suite, le monde change de couleur.
Bien sûr. Donc, on peut dire quelque part que c'est une sorte de médicament, la caresse, que c'est comme un anxiolytique naturel, vu tout ce que vous venez de décrire.
C'est une thérapeutique non médicamenteuse qui est très importante à réhabiliter dans le soin. Oui.
Caroline, pendant la période de séduction, alors les nouveaux amoureux ont tendance à ne pas se lâcher physiquement. Alors j'imagine que là aussi ça provoque tout un tas de phénomènes dans le corps des tourtereaux. Est-ce que vous pouvez nous décoder ce prélude amoureux?
Là en fait c'est tout ce qu'on appelle nous la fonction érotique. Il y a cette caresse mais il y a aussi tout le reste, la tension, le fait d'être avec l'autre et de partager beaucoup de choses. Donc on le décode, oui, mais je vais juste mettre un petit bémol là. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout tactiles.
C'est vrai.
Et qui n'aiment pas ça.
Moi j'ai voulu offrir un massage à une copine, elle m'a dit non, je déteste qu'on me touche.
Donc là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pathologique? Non, parce que ça fait partie de la personnalité. Mais souvent, en psychothérapie, quand on voit ça, qu'on creuse un petit peu, on peut voir certaines carences. Je ne fais pas une généralité, mais souvent
dans
des
leur
carences.
Enfance,
c'est-à-dire qu'il y a une mémoire de la caresse, que ce soit par la maman, le papa ou même la famille, quand on est tout petit. Et si on en a manqué, ça peut expliquer, ça peut expliquer un manque de caresse. Donc dans ces couples, ces préludes amoureux, s'il y en a un des deux qui n'est pas très tactile, au début il va l'être et ensuite, chasser le naturel, il va revenir au galop. Mais ça, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête là-dessus.
Ah, il ne faut pas le brusquer.
Non, surtout pas, surtout pas.
Alors en amour, Caroline, le toucher, c'est primordial ou pas pour garder la flamme? Je veux dire, on a tendance à penser que si un couple ne se touche plus, il est foutu. Alors est-ce que c'est le cas?
Oui et non. Franchement, là, il ne faut pas généraliser, c'est pareil. Il y en a certains qui n'aiment pas ça. Donc, quand on parle de préliminaire, oui, il y a le toucher, mais il n'y a pas que ça. La vue est importante. C'est-à-dire la vue du corps, comme disait Véronique. La vue, c'est... Moi, je le mets toujours en parallèle avec le toucher, avec une caresse. On peut caresser quelqu'un de la vue. On peut le désirer juste par la vue. On n'est pas obligé d'aller toucher.
C'est aussi important dans l'excitation ?
Oui, c'est très important. Dans notre érotiser son corps, ça va être par la vue. Ensuite, on va aller le toucher. Mais ce n'est pas si essentiel que ça.
Véronique, le fait qu'on reçoive beaucoup de caresses, enfant, normalement, quand tout se passe bien et qu'on est dans une famille non dysfonctionnelle, le souci, c'est qu'on voit bien que quand on bascule à l'âge adulte, même pas à l'âge adulte,
à votre fils, ils ont moins envie de contact.
Le vôtre, il a quel
13
âge
ans.
13 ans, je n'en veux plus déjà.
C'est entre les deux, là. Voilà. Il y a des côtés très bébés, puis des côtés où justement.
Et
le
mien,
touche, quoi,
il a 15 ans, je peux même. Alors, dès que je l'approche, il ne veut plus du tout que je le touche. C'est quoi? C'est par pudeur? Pourquoi on évolue comme ça?
Oui, c'est par pudeur. Et puis vous êtes sa maman. Oui. Je pense qu'il veut bien que sa petite amie ou
son petit ami.
Le... vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des moments où, par exemple, il se fracturait la cheville. Eh ben, il serait drôlement content que maman lui caresse.
Il aurait besoin de maman.
Mais bien sûr, et ça c'est tout à fait normal. Donc ces moments de câlinothérapie, parce que la caresse peut aller plus loin vers un câlin qui, qui engage le corps, hein. Eh bien, au moment où on est blessé, où on est malade, où on est fiévreux, c'est quelque chose qui est très important.
Alors Véronique, on a vu tous les bienfaits de la caresse sur notre humeur, notre vie affective et notre santé. Et pour avoir tous ces effets d'ailleurs, est-ce qu'il faut nécessairement la main d'un être humain? Parce que j'ai entendu parler notamment de tout ce qui est avec les animaux,
les bienfaits
des caresses,
aussi,
on fait rentrer aujourd'hui les animaux en maison de retraite. Mmh. Et justement, on sent bien que ça nous fait du bien quand le chat ronronne et qu'on le caresse. Est-ce que là aussi le bénéfice est important?
Le bénéfice est très important. D'ailleurs, j'ai tout un chapitre sur le chat, parce que la chat-thérapie, c'est très très important.
C'est vrai?
Mais bien sûr, c'est le meilleur des antidépresseurs. Quand vous êtes paralysé, vous avez un AVC en fauteuil roulant, vous avez un gros chat de gouttière qui vient ronronner sous vos genoux, c'est formidable. Oui, tout ce qui est ce qu'on appelle la pet-thérapie, les animaux de compagnie, est très important pour les personnes âgées, mais aussi pour les enfants autistes, aussi pour les enfants psychotiques. Hein. En général, le psychiatre ne touche pas. Mais là, je change complètement de casquette. Le gérontopsychiatre touche. Mmh. Et c'est très important de mettre la main pour rétablir un contact humain. Alors j'avais peur que vous me parliez des robots.
Non.
Alors ça n'a rien à voir.
Pourquoi, c'est quoi cette histoire de robots?
Eh bien, vous avez des robots qui vous caressent.
Ah bon?
Mais qui est un pis-aller. Ben oui, mais les Japonais, ils sont très robots.
Hein. C'est froid, ça ronronne pas. Voilà. On est capable de les faire ronronner aujourd'hui.
C'est des ronronnements bizarres qui font peur.
C'est bizarre.
Et qui n'apaisent pas. Eh bien oui, faute d'être humain. Il faut un humain derrière un humain. Et si vous remplacez par une interface robotisée, bah vous n'avez pas du tout la même chose.
Ça ne marche pas du tout. Et c'est valable aussi dans le couple, hein, par rapport aux caresses dans le couple. Quand on trouve qu'on a un conjoint peu ou pas câlin, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tenter de changer, Caroline Roux? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire des caresses et des câlins. Mmh. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait?
On achète un robot?
Mais là, justement, il faut parler de couple. Donc c'est pas pareil, là il va y avoir de l'amour, que j'appelle moi amour amoureux, donc on peut, alors souvent ceux qui ne sont pas forcément très caresses ou câlins peuvent caresser les autres, c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'on n'aime pas être caressé forcément, mais on peut aller vers l'autre. Et grâce à l'amour et grâce au partage, souvent on arrive, et surtout sur certaines zones, à pouvoir être caressé. Mais ça c'est avec le temps, et là aussi, heureusement il y a la routine qui va faire pour une fois des bonnes choses, on va dire, bah là, oui, pourquoi pas, je vais essayer, ça me fait du bien, oui, mais petit à petit, et souvent avec le même partenaire, donc un couple stable.
Vous avez des conseils quand même pour convertir quelqu'un qui n'aimerait pas trop les caresses, les câlins, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sensibiliser à ça?
Alors moi, je travaille beaucoup avec mes patients avec l'humour, donc ce qui est pas mal, c'est de se dire, tiens, on va essayer de se faire un petit massage, mais rigolo, donc souvent, il y en a un des deux qui est bien au niveau tactile, donc il va se faire masser, ça va être pas mal. Et l'autre va essayer de chercher quelques zones qui peuvent être sympas, mais tout en rigolant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de oui, non, vous voyez, où ce serait trop strict. Ce serait plus on essaye, et puis si j'aime pas, on fait ailleurs.
Plus une chasse au trésor, à gauche, à droite, tu brûles.
Comme un jeu, mais très ludique et tout le temps dans
l'humour. Ça a l'air de vous parler, Julien. Bon, écoutez, je trouve ça marrant, moi. Si ça peut convertir certains, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Bien fait pour vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 11h à midi.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
À 6h19, on fait le point sur toute l'actualité, Clotilde Dumay.
Il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans mamie. Les mots du prince William, 3 jours après le décès d'Elisabeth II. Dans un communiqué, le nouveau prince de Galles a promis de soutenir son père de toutes les manières possibles. Charles III a officiellement été proclamé roi hier. Il est attendu en Écosse demain à Édimbourg, où le cercueil de la reine doit arriver en fin de journée. Les princes William et Harry et leurs femmes, Kate et Meghan, qui sont tous quatre apparus près du château de Windsor hier pour partager un bain de foule et se recueillir devant les bouquets déposés. C'est la première fois depuis mars 2020 qu'ils ont été aperçus tous ensemble. Dans le reste de l'actualité, les Ukrainiens ont repris 2000 km de terrain depuis le début du mois, d'après le président Volodymyr Zelensky. À l'est, ils sont notamment entrés dans la ville de Kupiansk, qui se trouve sur des itinéraires d'approvisionnement de l'armée russe. Moscou annonce retirer des troupes de cette zone pour renforcer ses positions plus au sud, autour de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes pro-russes. En sport, elle s'offre un troisième grand chelem à 21 ans. Iga Swiatek a dominé 11 Jabeur en finale de l'US Open. 6-2, 7-5 pour la Polonaise et numéro 1 mondiale, doublement titrée à Roland-Garros.
Merci Clotilde Dumay, à tout à l'heure. Vous avez des mugs de la reine, des coussins de Charles III, ne les vendez pas, vous avez peut-être de l'or entre les doigts. J'en parle avec Kevin Guillot dans un instant, à tout de suite.
Intellectuel, chef d'entreprise, artiste, le week-end sur Europe 1.
Ça change beaucoup de choses, ça c'est une véritable révolution là.
Frédéric Taddeï reçoit des personnalités de tous horizons pour éclairer différemment l'actualité de la semaine écoulée.
C'est arrivé cette semaine.
Et anticiper la semaine à venir.
C'est arrivé demain.
Un rendez-vous emblématique Europe 1 par Frédéric Taddeï.
C'est arrivé cette semaine.
C'est arrivé demain.
Tous les samedis et dimanches à partir de 9h et quand vous voulez sur l'appli Europe 1.
Tout savoir sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. Dans un instant, nous parlons solutions pour continuer à vivre chez soi malgré les difficultés liées à l'âge.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Plus de 20 millions d'euros générés chaque année grâce aux goodies à l'effigie de la reine Elisabeth II. On imagine qu'avec son décès jeudi, ce chiffre va aisément être dépassé. Bonjour Kevin Guillot.
Bonjour.
Alors, vous avez un site internet qui s'appelle monarchiebritannique.com. Merci d'être avec nous ce matin. Ça va, le site n'a pas planté face à une trop grosse affluence ?
Non, mais effectivement, j'ai eu énormément de monde en 2 jours sur le site internet et c'est vraiment comme. Enfin, ça montre vraiment l'engouement qu'il y a pu avoir autour de la mort d'Elisabeth II.
Entre maintenant et avant le décès, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du chiffre, du nombre de connexions, par exemple ?
Bah, par exemple, le jour où on a appris qu'elle est décédée, donc on a appris sa mort le soir, donc jeudi soir, environ vers 19h, j'ai eu environ 20 000 personnes qui sont allées sur le site internet en une nuit. Donc effectivement, c'est énormément de monde, alors que normalement, je tourne autour de 500 personnes quotidiennement, tous les jours.
Vous allez devenir un homme riche, Kevin. Votre fortune est faite grâce à la mort de la reine. Alors, je suis allée voir sur votre boutique. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des bios, vous exprimez, vous racontez votre passion pour la famille royale depuis que vous êtes tout petit. Vous êtes vraiment tombé dans la marmite. Et puis, je suis allée voir sur votre boutique également. Là, c'est pareil, on trouve énormément de choses. Il y a des livres, il y a des DVD. Bon, ça, c'est assez classique. On trouve aussi des figurines, des mugs, des puzzles à l'effigie d'Elisabeth II. Est-ce qu'un de ces objets a plus de succès que d'autres depuis l'annonce du décès de la reine ?
Oui, en fait, tout simplement, tout ce qui est goodies comme des mugs, des sacs en tissu, des choses comme ça, c'est surtout des choses comme ça que je vends toujours très bien. Et effectivement, pour la mort de la reine, c'est vraiment ces objets-là qui sont vraiment partis extrêmement rapidement. Donc, voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens veulent avoir un petit quelque chose chez eux d'Elisabeth II, avoir un souvenir du règne d'Elisabeth II, mais qui prend pas trop de place et que l'on peut mettre facilement sur un meuble.
Alors, voilà. Vous, c'est lequel votre préféré ? Vous avez quoi chez vous, par exemple ?
Alors, chez moi, j'ai beaucoup de tasses, justement. J'ai beaucoup de mugs, donc à l'effigie d'Elisabeth II. J'ai aussi, par exemple, j'ai des pièces de monnaie parce que j'aime beaucoup les pièces de monnaie. J'ai effectivement aussi donc les figurines pop qu'ils ont pu sortir à l'effigie de la famille royale. Mm-hmm. Je pense que du coup, la marque devrait en sortir de nouveau après la mort de la reine Elisabeth II. Je pense qu'ils ont tout à gagner aussi de faire ça parce que, effectivement, l'engouement autour d'Elisabeth 2022 est telle que je pense que ça va se vendre hyper rapidement. Donc voilà. Donc effectivement, oui, j'ai ce genre de produit chez moi aussi. Voilà.
D'après vous, Kevin voilà. Guillot, pourquoi est-ce qu'on aime autant ces objets qui sont quand même délicieusement kitsch?
Parce que c'est extrêmement britannique, comme vous le dites, et je pense qu'on est extrêmement admiratif de cette monarchie britannique, plus qu'aucune autre monarchie en Europe. On n'a pas vraiment ce même engouement pour l'Espagne ou pour le Danemark ou la Belgique, par exemple, qui sont aussi des monarchies. Tout simplement parce que c'est la monarchie la plus célèbre. Elisabeth II a vraiment marqué son temps avec cette longévité incroyable. On en est extrêmement reconnaissant et admiratif. Et c'est ce qui fait que, du coup, on aimerait tous, tout à chacun, avoir en fait la figure d'Elisabeth II, la figure de cette monarchie à la maison. Donc c'est ce qui fait que, du coup, aujourd'hui, les Français se mettent à la mode britannique avec ce genre de produit, alors que normalement ce n'est pas quelque chose qui se fait en France. Personne n'a acheté de mug à l'effigie d'Emmanuel Macron.
Voilà. Est-ce que vous pensez que le désormais roi Charles III fera vendre autant, ou est-ce qu'il faut miser peut-être sur Harry, Meghan, Kate, William et leurs enfants? Est-ce qu'il sera populaire, Charles?
Alors, Charles ne sera pas aussi populaire que sa mère, il en est totalement conscient. C'est un homme extrêmement intelligent qui ne va pas miser sur cette carte, tout simplement parce qu'il sait qu'il ne peut pas se battre contre la popularité de sa mère. Donc non, je pense qu'il ne fera pas vendre autant qu'Elisabeth II faisait vendre, pardon. Mais ce qui va faire vendre, du coup, effectivement, ce serait plutôt le couple héritier, le prince William et Kate Middleton, qui sont d'ailleurs maintenant titrés prince et princesse de Galles. Mm-hmm. On a appris cela hier. Et je pense que c'est vraiment cette monarchie qui s'ouvre aujourd'hui. En fait, c'est comme si on avait deux couples qui sont sur le trône, en fait, parce que on aura forcément donc le roi et la reine, Charles et Camilla, mais on aura aussi le prince héritier et son épouse qui seront extrêmement présents, et c'est sur eux que Charles va compter pour faire augmenter la popularité de la monarchie, parce qu'il sait très bien qu'il ne la fera pas augmenter comme il le souhaite aujourd'hui, même s'il va tout faire pour se faire aimer le maximum de ses sujets. On l'a vu dès qu'il est sorti de la voiture pour arriver à Buckingham Palace, on a vu que tout de suite il est allé à la rencontre de ses sujets, qui était en train de pleurer sa mère. Voilà, donc la monarchie va être extrêmement différente, parce que on n'aurait jamais pensé qu'Elisabeth II allait aller vers ses sujets et se laisser embrasser par ses sujets comme il a pu le faire. Voilà, donc ça sera complètement différent, une monarchie qui sera peut-être plus proche de son peuple, et c'est ce qui va peut-être plaire aux Britanniques, et ce qui va peut-être augmenter sa popularité malgré tout.
Dernière petite question, j'ai vu que vous vous donniez quelques conseils pour qu'on présente nos condoléances à la famille royale. Vous pouvez me donner une petite astuce, comment je fais si je veux aller griffonner quelque chose là tout de suite?
Alors déjà, il faudrait aller sur le site officiel de la monarchie britannique, de la famille royale, pardon, parce qu'ils ont mis en ligne du coup un formulaire pour pouvoir envoyer nos condoléances. Ces condoléances ne sont pas supprimées ou mises de côté, elles seront toutes archivées dans les archives royales de Windsor, et certaines, si elles sont bien écrites, seront présentées au roi en personne.
Voilà. Merci beaucoup, Kevin Guillot. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'un site qui s'appelle monarchiebritannique.com. Si vous voulez vous offrir un dernier petit souvenir de la reine Elisabeth II, on rappelle, il y a des mugs, il y a des coussins, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
6h30, merci de nous rejoindre. Bon courage si vous allez au travail. L'information de ce dimanche matin, c'est avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Charles III proclamé roi lors d'une cérémonie historique, fierté et émotion à quelques kilomètres de son ancienne résidence dans le Pays de Galles.
Fervent écolo, défenseur de l'environnement, Charles III va devoir composer avec la vision plus conservatrice de la nouvelle première ministre Liz Truss.
On en consomme 10 milliards par an, les capsules de café se transforment, fini le plastique et l'aluminium, place au biodégradable. Et puis en football, le PSG s'impose difficilement face à Brest pour la 7e journée de Ligue 1. 1-0, mais Paris reprend son trône de leader.
Dans la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient avec la chanteuse anglaise Petula Clark pour la balade du dimanche direction Annecy. Et puis Olivier Pouls nous aide à préparer le repas de midi. Les figues sont au menu. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, le ciel qui redevient estival partout et les températures qui regrimpent sur le sud-ouest, frisant des records avec 35 annoncés à Pau et Tarbes.
Météo complète à la fin du journal.
Europe 1.
Il va falloir s'y habituer. God Save the King. Charles III a été officiellement proclamé roi.
Une cérémonie retransmise pour la première fois à la radio et à la télévision dans le petit village de Landovery au Pays de Galles, à quelques kilomètres de la résidence de l'ancien prince de Galles. L'émotion était particulièrement forte. Le reportage de notre envoyé spécial Nina Droff.
Coincé entre deux collines, le petit village aux maisons colorées de Landovery paraît à première vue désert. Mais en poussant la porte du musée local, on trouve une dizaine de personnes rassemblées autour d'un poste radio qui diffuse la cérémonie de proclamation.
On vit un moment d'histoire, c'est fascinant.
Le roi Charles a conquis le cœur des habitants ici, depuis qu'il s'est installé dans sa résidence royale à quelques kilomètres du village. Jane et Lucille l'ont même souvent vu se promener dans le square en face du musée.
Il vient ici tous les ans pour sa visite annuelle au Pays de Galles, mais aussi pour des visites personnelles. Il aime bien se promener ici parce qu'il se sent en sécurité. Les gens le laissent tranquille, seul, avec ses pensées.
C'est un homme vraiment charmant, très gentil. J'espère qu'il va apporter ça à sa fonction.
Il est très populaire ici. Il a fait beaucoup pour cette ville. De grosses donations. On est fiers qu'il ait choisi cet endroit.
C'est donc avec une grande fierté, mais aussi un petit pincement au cœur qu'elles écoutent cette cérémonie.
Je ne sais pas si on va le revoir par ici. Il va être très occupé. Mais on a un nouveau prince de Galles maintenant. On va voir si Kate et William viennent nous voir.
En attendant, le musée espère que l'ascension de Charles au titre de roi attirera de nouveaux touristes dans le village.
Le reportage de Nina Droff, envoyée spéciale au Pays de Galles. Charles III qui va notamment devoir régler les derniers détails des funérailles de la reine Elisabeth II. Elles auront lieu le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres.
Charles III s'installe donc comme chef d'État. Lui qui intervenait régulièrement dans les affaires du pays va devoir respecter le principe de neutralité.
Et ça risque d'être parfois compliqué pour ce fervent écolo passionné de jardinage et de botanique. Charles III est un homme engagé qui passe beaucoup de temps à plaider en faveur de la planète. Une vision qui pourrait se confronter à celle de la nouvelle première ministre Liz Truss, jugée plus conservatrice. Denis McShane est ancien ministre britannique des Affaires étrangères. Il était hier soir au micro Europe 1 de Pierre de Villeneuve.
Il ne peut pas stopper ou initier beaucoup de choses. Mais il est bien intentionné et surtout, toute sa vie, il s'occupait, il est très tôt, sur les questions d'environnement. Et là, très intéressant, par exemple, il est anti-fracking. Vous savez, cherchant le gaz du schiste. Mais Madame Truss, le nouveau Premier ministre, a toujours dit je veux que l'Angleterre devienne un terrain des frackers pour avoir plus d'indépendance énergétique. Intéressant de voir s'il y a une petite discussion entre le Premier ministre et le roi sur cette question-là.
Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires étrangères.
La préservation de l'environnement qui passe aussi par des petits gestes du quotidien avec un changement de capsule de café, Clément.
Oui, on en consomme 10 milliards par an en France. Vous êtes peut-être même en train d'en mettre une dans votre machine à café pour le petit déjeuner. Les capsules représentent aujourd'hui 2/3 des ventes de café dans le pays. Souvent en aluminium ou en plastique, elles finissent à la poubelle. Mais certaines marques innovent pour réduire l'impact environnemental, Aurélien Fleureau.
Vous devriez les voir arriver d'ici quelques jours dans les rayons des supermarchés. Des doses de café sans emballage. L'innovation inédite vient du groupe suisse Migros avec son café royal sous la forme d'une boule enrobée d'une couche quasiment invisible à base d'algues récoltées sur la côte atlantique. Une fois insérée dans une machine compatible, la boule est lavée puis expulsée comme une capsule classique. L'impact environnemental, c'est également au cœur de la démarche de Daniel Trégoat. Ce Breton a fondé Capsulab Bio. Chez lui, tout est biosourcé et biodégradable.
On fait des capsules à partir des produits qui viennent de la terre, à savoir du maïs et du blé français, non OGM. Ensuite, les capsules sont biodégradables donc à partir de 26 semaines. Et donc, on peut les mettre dans les poubelles classiques et elles peuvent servir d'engrais pour les plantes du jardin.
L'entreprise est en train d'embaucher pour répondre à une demande de plus en plus forte. Et pour ceux qui n'aiment pas le café, Capsulab propose aussi de la chicorée et bientôt des infusions.
Les explications d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Allez, un petit café et ensuite une idée sortie si vous habitez en région parisienne, direction la Cité des Sciences.
Où se tient ce week-end le festival Cité des Sens, consacré cette année à Louis. De nombreux ateliers sont proposés. Marie Jiquel, vous avez rencontré l'un des intervenants, un véritable magicien du son.
À vous de choisir votre ambiance. Si vous êtes plutôt maro-canard avec grenouille.
Voilà, j'ai fait 2-3 grenouilles.
Ou soirée devant un feu de cheminée.
Ce week-end, c'est Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur, qui tiendra le stand de bruitage du Festicité à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Oh bah, il y aura plein de sons possibles, c'est-à-dire que là, moi, je vais amener des extraits de films que j'aime bien, et c'est le public qui va sonoriser les extraits.
L'occasion de découvrir les secrets de fabrication d'une bande originale, même si Jean-Carl Feldis veut garder une part de mystère.
Alors, je vais pas trop dévoiler mes secrets, parce que vous savez que le bruitage, c'est un peu de la magie, et tous les magiciens ne donnent jamais leurs secrets. On évite en tout cas.
Et pour compléter votre formation bruitage, des ateliers de doublage sont également organisés. Ouvrez grand les oreilles.
Le reportage de Marie Jiquel du service culture d'Europe 1.
Eux aussi ouvrent leurs grandes oreilles pour écouter le coach. Ce sont les joueurs du PSG.
Le PSG qui s'impose difficilement face à Brest 1-0 grâce à un but de Neymar sur un beau service de Messi. À 4 jours de son déplacement en Israël pour la Ligue des Champions, Paris n'a pas été impérial, mais les joueurs de Christophe Galtier se maintiennent à la tête du championnat de Ligue 1. Et ça, pour l'entraîneur, eh bien, c'est le principal.
Satisfait de ce que j'ai vu sur un plan offensif en première période. Les joueurs ont beaucoup créé, ils ont créé beaucoup de situations. Moi, je pense qu'on mérite de mener au score, peut-être avec un ou deux buts de plus. Mais on a mis du temps à rentrer dans le match. On a beaucoup ronronné, on a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de placement aussi sur un plan défensif. Et en deuxième mi-temps, c'est très contrasté par rapport à la première. Brest a gagné en confiance en étant mené que d'un but d'écart. Je répète encore une fois, le plus important évidemment de l'emporter, mais quand on est à Paris, on ne peut pas laisser l'adversaire espérer comme ça. Voilà.
Christophe Galtier au micro européen de Cyril de la Morinerie est toujours pour cette 7e journée de Ligue 1. Marseille recevait Lille hier. Les Marseillais qui se sont imposés 2-1 et qui eux aussi sont en tête du classement.
C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Avec Valérie Darmon, du beau temps partout.
Effectivement, il faut juste patienter un petit peu plus au nord, plus exactement du nord de la Bretagne à l'Alsace, où le ciel est un petit peu nuageux ce matin, des nuages de basse couche, hein, faciles à se dissiper, qui sont présents partout. C'est bien brumeux aussi sur le nord et le nord-ouest, et sur le reste du pays, le soleil, dès son lever, c'est-à-dire à 7h21 par exemple à Paris, va dominer largement jusqu'à ce soir sur l'ensemble du pays, rendant ce dimanche estival.
Avec des températures qui sont en hausse.
Et oui, les maximales en nette hausse, hein, notamment sur le sud-ouest, avec des pics entre 32 et 35 degrés annoncés par Météo France. Ailleurs, le thermomètre qui atteint 27 à 30 sur le sud-est et 20 à 27 sur la moitié nord, ce qui va donner 35 quand même à Mont-de-Marsan, à Pau et Tarbes cet après-midi, 33 à Biarritz et Albi, 30 degrés à Marseille et Nîmes, 29 à Manosque, 27 à Grenoble, 24 à Besançon et 21 à Boulogne-sur-Mer. Et des minimales qui, elles, sont en baisse et fraîches d'ailleurs, hein, sur la majeure partie de la France, 15 à 18 sur la côte atlantique et jusqu'à 20 sur la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon, vous restez avec nous hein, à 7h10, on part en balade avec Vanessa Zah et Olivier Pouls, direction Annecy.
Tout de suite, l'entretien de Philippe Legrand avec Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Une date, une histoire. Philippe Legrand, ce matin, pour ce week-end un peu particulier, c'est l'une des chanteuses britanniques les plus célèbres, Petula Clark, qui se confie. Elle avait été décorée par Sa Majesté la Reine d'Angleterre, Elisabeth II. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. Retour en 2001, le choc d'une tragédie outre-Atlantique. Bonjour Petula Clark.
Bonjour Philippe, ça va ?
Chanteuse, auteure et actrice britannique, vos chansons sont des tubes, des standards internationaux. Ils ont pour titre Downtown ou encore La Gadoue, mais aussi My Love. À Londres, vous êtes la vedette de la célèbre comédie musicale Mary Poppins. Sa Majesté la Reine vous fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Vos succès totalisent aujourd'hui plus de 68 millions d'albums dans le monde. Avant que les plus grands théâtres ne vous accueillent ou que vous ne partagiez l'affiche, entre autres avec Fred Astaire, c'est à la radio que vous faites vos premiers pas. Oui, vous avez alors 9 ans et la BBC vous déroule le tapis rouge. Petula Clark, vos parents, infirmiers tous les deux, avez-vous juste la scène et votre trône? C'est d'ailleurs ce que monte votre double CD au Royal Albert Hall. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 11 septembre 2001. L'Amérique est frappée par des attaques terroristes. Le témoignage sur Europe 1 d'Ornella Pacchioni, auteur de ce premier roman, Londres a beau être une ville laide, la voix de la nouvelle génération.
Je me souviens de mes parents qui discutent de la chance qu'on a eue d'avoir quitté New York où nous étions en voyage juste avant que les tours ne tombent. Et de me dire, du haut de mes 5 ans, qu'effectivement les tours qui tombent, c'est dangereux. Mais ce n'est que plus tard, en parlant avec des amis, que je prends conscience des vies brisées des victimes, et de leur famille, de leurs âmes qu'on a tous respirées. Et c'est à ce moment que je pense que cela en dit long d'une société portée sur l'objet, l'image, la puissance et peu sur le temps, le deuil et l'humain.
C'était Ornella Pacchioni au micro d'Europe 1, cette jeune auteure qui publie son premier roman. Elle fait partie de cette nouvelle génération touchée. Pourquoi cette date, vous, Pétula Clark, cette chanteuse mondialement connue, le 11 septembre 2001, c'est un choc qui nous concerne tous, qui touche le monde entier. Vous étiez où à ce moment-là ?
Ben, j'étais à Londres, en fait. J'étais en train d'enregistrer quelque chose et j'avais une après-midi de libre. Alors, je suis allée faire un peu de shopping. Quand je suis rentrée chez moi, le téléphone a sonné. C'était ma fille, ma fille Cathy, qui était à Paris. Et elle m'a dit, « Maman, tu regardes la télévision ?» Je lui ai dit, « Non, non. » Je lui ai dit, « Mets la télévision. » Et là, on a regardé toutes les deux. Elle à Paris et moi à Londres, cette affreuse chose. Et on était en larmes toutes les deux. Et c'était un moment de choc et d'émotion, pour le monde entier, bien sûr. Pour moi, l'autre fille, parce que j'ai deux filles, Bara, elle habite Manhattan, à New York, avec ses enfants. Et pendant 3 jours, j'ai pas pu parler avec elle. C'était le cauchemar. Et en plus, New York, pour moi, c'est encore une ville très spéciale pour moi. Quand Downtown était sorti aux États-Unis, c'est surtout New York qui est tombé amoureux de cette chanson et qui est resté encore son anthème, si vous voulez. Alors, je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement en deuil pour tout ça. Petit à petit, je me suis dit, alors il faut faire quelque chose avec ces émotions. Alors, j'ai écrit un poème. Et David Aziz, un jeune homme suisse qui a beaucoup de talent, il a fait la musique.
Le musicien, le producteur. Vous avez effectivement ensemble composé Starting All Over Again. C'est bien cette chanson à laquelle vous pensez ?
Ouais, cette chanson voulait dire il faut tout recommencer parce que rien ne sera pareil.
Pétula Clark, votre actualité fait aussi partie d'une certaine manière des souvenirs, cette fois des souvenirs heureux, puisqu'il y a ce double CD qui sort, Valentine's Day at the Royal Albert Hall chez United Music Foundation, un travail à plusieurs mains avec David Aziz, justement de la remasterisation, un son incroyable, et ça commence par, au fond, ces chansons, vos tubes, le 14 février 1974 sur la scène de ce célèbre théâtre. Allez, quelques souvenirs.
Oh, ouais. C'était pas la première fois que je chante à l'Albert Hall. Mais votre prononciation est très bien. Hein? Bravo.
Thank you very much.
Very good. Je pense que j'ai chanté là pour la première fois. J'avais 9 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est très impressionnant comme endroit. C'était construit à l'honneur de Albert par la reine Victoria. Et c'est vraiment magnifique, mais ils ont beaucoup travaillé sur l'acoustique, alors on entend vraiment, vraiment bien. Et c'était bien enregistré, ce concert. C'était en direct, bien sûr, avec un énorme orchestre.
Et une diffusion, il ne faut pas l'oublier, hein, on l'a tous en tête, hein, une diffusion à l'époque sur Europe numéro 1, qui a justement retransmis dans son émission Musicorama les meilleurs moments de ce concert. Alors, il y a aussi, à l'intérieur de ce double CD, il y a bien sûr ce livret qui permet de mieux comprendre l'époque, le concert, mais aussi le répertoire. Est-ce que la reine, au fond, qui est d'une certaine manière, je l'ai dit en vous présentant, une amie, votre amie, Sa Majesté, n'est pas loin de vous, est-ce qu'elle était dans la salle cette fois-ci ?
Oh non, elle n'était pas là. Non, mais la salle était pleine d'anglais, bien sûr, mais il y avait pas mal de Français, les Allemands, les Américains, et l'importance pour moi, c'est le public. C'est pas une personne, c'est le public. Et ce soir-là, c'était absolument merveilleux, parce que c'est énorme cette salle, 6 000 personnes. Mais quand on arrive sur scène, c'est comme si on était dans son living. C'est même un peu cosy.
Pétula Clark, allez, encore quelques mots avant de se quitter justement avec le titre que vous voulez partager avec nous, qui est dans votre playlist Downtown. On va l'écouter d'ici quelques minutes. Allez, encore un mot, puisqu'on est à Londres avec vous, avec ce souvenir au Royal Albert Hall. La reine, je disais, vous l'avez rencontrée. Vous avez eu quelques nouvelles à l'heure de son jubilé?
Vraiment, non. Mais je dois dire qu'elle est radieuse. Ces dernières photos que j'ai vues d'elle, elle s'habille avec la couleur. Et elle n'est pas du tout comme la reine Victoria qui s'est habillée en noir quand son mari est mort. Elle est restée en deuil pendant des années. Mais notre reine actuelle, elle est tout à fait dans la vie. Elle s'occupe de beaucoup de choses, sa famille surtout. Et Dieu sait, il y a des problèmes. Mais les photos que j'ai vues, moi, je la trouve vraiment bien.
Avant de retrouver quelques photos de vous dans ce CD qui est à découvert, ce double CD à Valentine's Day at the Royal Albert Hall chez United Music Foundation, on va vous écouter dans Downtown, extrait de ce double CD. Merci d'être venu sur Europe 1, Pétula Clark. Avec vous, on a revécu ce 11 septembre 2001 à travers votre témoignage. À bientôt sur Europe 1.
Merci.
Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen.
Pétula Clark sur Europe 1, une date, une histoire, Philippe Legrand, à retrouver sur europe1.fr.
Europe Matin Weekend,
Léna Aigmonier.
Et à 6h48 sur Europe 1, on retrouve le fil info de Clément Barguin.
Charles III est officiellement roi du Royaume-Uni. Dans son discours d'intronisation, le nouveau souverain s'est dit profondément conscient des devoirs et lourdes responsabilités liées à ses nouvelles fonctions. Le cercueil d'Elisabeth II, qui se trouve actuellement au château de Balmoral en Écosse, va être transféré au palais de Holyrood House, puis à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. La dépouille sera ensuite acheminée mardi vers Londres, où elle sera publiquement exposée pendant 4 jours. Les funérailles auront lieu le 19 septembre. Dans une tribune publiée sur le journal du dimanche, les présidents de région réclament une grande réforme de décentralisation. Selon eux, les élus locaux doivent disposer d'une responsabilité claire et exclusive et des moyens de la mettre en œuvre. Et puis un tremblement de terre de magnitude 4,8 secoue le nord-est de la France. L'épicentre a été localisé au sud de Mulhouse, du Bas-Rhin à l'Ain. Les secousses ont été ressenties dans un large rayon. Pour l'heure, aucun dégât important n'a été rapporté.
Merci Clément. Dans une minute, on part en balade à Annecy avec Vanessa Zah. Et puis, comme chaque dimanche, Olivier Pouls nous donne une idée de recette pas trop compliquée à base de figues ce matin. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
La balade du dimanche, Olivier Pouls, Vanessa Zah. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors ce matin, on va partir en Savoie-Mont-Blanc, à Annecy précisément, pour la 5e édition d'Annecy Paysage.
Exactement, qui a lieu jusqu'au 25 septembre. Ce festival, il met à l'honneur chaque année des installations paysagères et artistiques qui sont signées par des designers, des architectes, des artistes plasticiens, des paysagistes, et qui sont disséminées dans la ville, les parcs, les rues, les places. Donc c'est une immersion, une réflexion sur les paysages d'Annecy, ses montagnes, son lac, et il y a aussi des œuvres sur le lac.
Ah.
Voilà, et ça, c'est vrai que c'est un superbe terrain de jeu, hein, ce
c'est
lac.
C'est beau. Hein,
bon, il faut le partager, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur ce lac, ça circule, il faut s'organiser. Alors, il y a une œuvre en particulier cette année qui a beaucoup de succès. En fait, ce sont des portiques colorés avec des transats donc, intégrés, et vous êtes posé face au lac. Cette œuvre, elle s'appelle Ciudad Silencio, donc ça veut dire évidemment beaucoup de choses à travers donc, cette ville silencieuse. Et donc, on vous invite à vous poser pour dialoguer avec cette nature et ce lac que vous observez, dont le niveau baisse tout doucement.
Oui.
Et surtout, cette année, donc c'est aussi une pièce engagée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en fait, dans le festival.
Alors Vanessa, il y a aussi des nouveautés techniques pour cette édition.
Alors, il y a des œuvres virtuelles en réalité augmentée grâce à une application qui s'appelle Annecy Paysage sur votre smartphone. Et ce sont des étudiants de l'école des Gobelins qui se sont emparés de la ville. D'accord. Voilà, de ces histoires. Ils ont créé 4 œuvres virtuelles comme poésie urbaine qu'ils ont imaginées autour de la légende du lac d'Annecy. Écoutez Karine Altermat, qui est la coordinatrice du festival.
Le lac d'Annecy est né d'une larme versée par des anges. Et donc, autour de ce mythe, en fait, ils ont créé une ville comme ça, suspendue au-dessus des eaux et au-dessus de la ville actuelle. Quand on bouge avec le téléphone, on voit plein de choses qui se passent au-dessus de nous, en fait. Et donc, c'est cette ville suspendue ou qui est en train de se préparer à un déluge et à un départ imminent. Et donc, on voit comme ça des navettes arriver. Donc, c'est assez poétique. Cette pièce-là est très poétique.
Alors, c'est assez original. Si on a envie d'aller d'en profiter pour aller un petit peu voir ailleurs, qu'est-ce
qu'on fait ? Vous avez le vertige ou pas tous les deux ?
Oui.
Oui,
moi je reste au niveau de la mer, moi.
Niveau zéro. De la mer. Ouais, d'accord, bien bretonne. Alors, je vais quand même vous allez vous glisser dans la peau d'une oie sauvage. Je vous propose de découvrir Annecy par les airs en ULM. Ça, c'est une expérience assez magique parce que pendant que vous survolez le lac, les oiseaux migrateurs, eux, surfent sur l'arête en fait du delta, pour mieux se faire porter. Et donc, résultat, vous avez l'impression d'être en symbiose avec eux. Donc, c'est assez fort. C'est même très serein. 45 minutes, dès 5 ans, mais pas plus de 80 kilos. Et c'est avec Delta.
Pourquoi vous regardez Olivier ?
Mais pas du tout, c'est vous, j'ai un strabisme, c'est tout. Voilà. Et sinon, il y a évidemment aussi des vols en montgolfière possibles avec la compagnie des ballons. Et en plus, à chaque fois que vous effectuez un vol, vous plantez un arbre.
Merci beaucoup, Vanessa. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire à manger ce midi ?
Non, pas du tout. Bah
alors
j'attends les réponses de notre ami Olivier.
C'est la mission d'Olivier toute cette saison. Le dimanche, vous nous aidez un peu à faire le menu parce qu'on est un peu dépassé par la semaine.
Et alors, on va manger des figues aujourd'hui, les amis. On est en pleine saison, c'est la fin de l'été. Ça va jusqu'au début de l'automne. Alors, la figue, évidemment, qui est un produit qu'on mange depuis très longtemps chez nous, hein, depuis l'Antiquité, qui s'est développé dans le sud. C'est la région de Solliès, à l'est de Toulon, qui est aujourd'hui le berceau français de la grande figue de qualité, appellation d'origine contrôlée depuis 2006. Mais on trouve des figuiers un petit peu partout. C'est une plante qui s'acclimate pas trop mal. Et d'ailleurs, je vous ai apporté des figues de mon figuier personnel qui est en Bourgogne. Quelle vous voyez chance. Qu'on peut faire aussi mûrir des figues.
Passez-nous ça.
Je vous donne ça, qu'on peut faire mûrir des figues en Bourgogne. Alors, est-ce que vous savez que la figue, en réalité, n'est pas un fruit? Non, c'est pas un fruit. C'est ce qu'on appelle une fleur inversée. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de la figue et de la guêpe? Alors, c'est pas une fable de La Fontaine.
Je peux pas parler, je mange.
Alors, peut-être qu'après avoir entendu cette histoire, vous la regarderez un peu différemment, cette figue. Donc, je vous dis que la figue, c'est une fleur inversée, en réalité. Tout autour, il y a une membrane, c'est ce qu'on appelle la cicone. Dans cette membrane, il y a plein de toutes petites fleurs. Et une fois qu'elles ont été fécondées, elles donnent plein de fruits. Donc, vous ne mangez pas un fruit, mais vous en mangez en réalité beaucoup.
D'accord.
Quand vous ouvrez la figue, d'ailleurs, vous voyez tous ces petits grains, toutes ces petits grains. En fait, ce sont des petits fruits. Mais le problème, c'est que pour féconder la figue, eh bien, il faut une technique bien particulière. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guêpe très particulière qu'on appelle la guêpe du figuier, qui rentre dans la figue, qui pollinise la figue. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle est rentrée, elle ne peut plus sortir. Elle est prisonnière à l'intérieur.
Je regarde ma figue différemment.
Et en réalité, quand vous mangez une figue, vous mangez aussi une guêpe.
Non.
Alors, vous la mangez plus vraiment parce qu'en fait, la figue, elle a dissous la guêpe avec ses enzymes.
Incroyable.
Mais les véganes les plus radicaux ne mangent pas de figue parce qu'ils considèrent qu'il y a de la guêpe dedans, donc il y a de la protéine
incroyable.
Animale.
On apprend des choses.
C'est l'histoire de la figue. Alors maintenant que vous avez mangé ces figues, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Moi, j'aime bien, et vous voyez, tout au long de la saison, c'est associer les produits de saison et même parfois les couleurs. Alors, il y a un produit de saison aussi que j'aime beaucoup, je sais qu'il n'a pas toujours très bonne réputation, c'est la betterave. Mais une betterave,
la betterave
bien préparée,
moi,
c'est très bon. Cuite au four, tout simplement dans une feuille de papier aluminium pendant 40 minutes. Vous allez couper des petits morceaux de figue, des petits morceaux de betterave. La betterave, vous la laissez de côté. La figue, vous pouvez légèrement la poêler avec une touche de miel, un peu de vinaigre balsamique. Vous réunissez tout ça dans une salade. Vous prenez un morceau de feta. Et ce morceau de feta, vous le mettez au congélateur pendant une heure de manière à ce qu'il devienne dur comme du bois.
Ah oui.
Au dernier moment, avec une râpe à fromage, vous venez râper de la feta congelée sur votre salade figue et betterave. Ça va fondre très légèrement, évidemment, au contact, mais ça va devenir comme une neige de feta par-dessus. Et un tout petit peu de coriandre, et c'est parti.
Merci, Olivier.
Je note.
Je vais vous adopter, Olivier.
Je vais faire.
Merci à tous les deux. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les infos arrivent. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On est content de passer ce dimanche avec vous. Il est 7h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et à 7h, le journal, c'est avec Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïc, bonjour à tous. Un périple de près de 300 km à travers l'Écosse. Première étape du dernier voyage d'Elisabeth II. Le cercueil de la reine est attendu à Édimbourg en fin de journée.
Faut-il diffuser les vidéosurveillances du soir du drame au procès lié à l'attentat de Nice? On verra pourquoi la cour d'assises spéciale de Paris hésite.
Et puis les tifosi en tribune, Charles Leclerc en pôle et tutti quanti pour ses 75 ans. Ferrari veut faire la festa au Grand Prix d'Italie cet après-midi.
Dans la prochaine demi-heure, nous serons avec Sir Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, pour parler de la place du nouveau roi Charles III sur la scène internationale. Et puis c'est son dada, Mathieu Alterman sera avec nous pour parler encore plagiat. Mais avant cela, tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, la hausse des températures dans le sud-ouest, avec de nouveau 34 à Auch et à Cahors, 35 à Mont-de-Marsan, sous un soleil qui gagne du terrain sur les régions nord, réchauffant également l'atmosphère.
Et on vous retrouve à la fin du journal. Avant d'être transféré à Londres en début de semaine prochaine, le cercueil d'Elisabeth II reste pour le moment en Écosse.
Mais il va quitter ce matin le château de Balmoral où la reine est décédée jeudi pour être transporté jusqu'à Édimbourg au palais de Holyrood, la résidence officielle de la famille royale dans la capitale écossaise. Sur place, tout le monde se prépare pour ce grand événement, Guillaume Dominguez.
Depuis l'annonce du décès de la reine, le quartier de Canongate, en plein cœur de la capitale écossaise, s'est transformé. Les rues sont interdites à la circulation, des barrières ont été placées de chaque côté de l'avenue principale et les pelouses des jardins ont été tondues. Farad est gérant d'un magasin de souvenirs dans la rue principale. Il a assisté à l'ensemble des préparatifs, mais il sait que le passage du corps de la reine cet après-midi sera un moment difficile.
Ce sera très dur de la voir comme ça. Tout le monde aime la reine et la famille royale. Elle va passer là, juste devant nous. Avec mon collègue, on a prévu de prendre un moment pour lui rendre hommage quand elle va passer. Ce sera dur, mais c'est important.
Le cortège funéraire traversera le quartier en milieu d'après-midi sous le regard de milliers de spectateurs comme Hallie, venue spécialement à Édimbourg avec sa fille pour voir passer le cercueil de la reine. Pour elle, l'hommage est indispensable.
Il faut lui rendre hommage, c'était une reine merveilleuse. Nous avons beaucoup de chance qu'elle ait passé ses vacances en Écosse. Nous l'aimons tous beaucoup. We just love
them. Demain, une cérémonie religieuse aura lieu en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Puis le cercueil de la reine sera exposé au public pendant 24 heures pour leur permettre de se recueillir. À Édimbourg, Guillaume Dominguez, Europe 1.
Et le cercueil de la reine qui sera donc ensuite transporté à Londres où les funérailles auront lieu lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster dans la matinée.
Et ce sera d'ailleurs un jour férié pour les Britanniques qui ne vivent pas tous ce deuil de la même façon, Clotilde.
En Irlande du Nord, forcément, c'est une étape difficile pour les unionistes, très attachés au maintien de la province britannique dans le Royaume-Uni, contrairement aux républicains. La visite demain du nouveau roi Charles III est donc très attendue au château de Hillsborough, la résidence royale, où Laura Taouchanoff a rencontré des sympathisants de la famille royale.
La pluie ne cesse d'éteindre la bougie que Morgan tente d'allumer. Les fleurs suffiront finalement, avec une photo en famille devant le château pour dire au revoir.
Elle avait cette capacité de nous unir et de guérir notre pays, surtout après la guerre civile. C'est quand quelqu'un part qu'on se rend compte de son importance. Elle arrivait à fédérer et c'est une figure majeure pour le Royaume-Uni dans son ensemble.
Une figure surtout pour la communauté unioniste majoritairement protestante. Pour John, se montrer devant ce portail noir, c'est prouver que la culture britannique ne s'éteint pas avec elle.
J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de changements et une transition douce. Il y aura toujours des gens qui ne la respecteront jamais. Un pub à Belfast va organiser une fête pour sa mort. C'est mal. C'était une mère, une grand-mère, notre monarque.
Désormais, leur identité britannique sera incarnée par Charles III, bien moins populaire. Après leur défaite historique aux dernières élections en mai, les unionistes devront essayer de se remettre de cette nouvelle épreuve. Hillsborough, Laura Taouchanoff, Europe 1.
Et officiellement proclamé roi hier, Charles III va donc d'abord se rendre en Écosse demain, avant l'Irlande du Nord, puis le Pays de Galles vendredi prochain pour donc faire le tour du Royaume-Uni.
Dans le reste de l'actualité, Clotilde, le procès lié à l'attentat du 14 juillet à Nice entre dans sa deuxième semaine.
Avec cette question, faut-il ou non diffuser les images de la vidéoprotection de la ville de Nice qui montre la scène du crime ? Si la cour le décide, elles seront projetées dans le courant de la semaine, Frédéric Michel.
Sans préjuger de son choix final, le président de la Cour d'assises spéciale a d'ores et déjà indiqué qu'il s'orientait vers cette diffusion. Laurent Ravio prendra une décision sans doute mardi soir, après avoir réuni toutes les parties pour visionner hors audience une copie des vidéos. L'original, placé sous scellé, devant être vu dans l'enceinte de la Cour, c'est la loi. Cette réunion doit permettre à chacun d'affiner son opinion, mais les avocats de la défense mettent en garde. Si les images sont diffusées en audience, il y a un risque de confusion, les accusés n'étant pas jugés pour complicité. Sans s'y opposer, le ministère public estime que ce n'est pas forcément utile pour caractériser les faits reprochés et prévient « Nous allons assister en direct au meurtre de ces personnes, à leur démembrement physique et ça va être particulièrement insupportable. » Pas d'opinion unanime sur le banc des parties civiles, mais une avocate souligne « Il y a des victimes qui veulent que tout soit vu, tout soit compris, que leur douleur, leur effroi soit posé dans cette salle. » Alors précisons qu'il n'y a pas de son sur ces vidéos et que le président a déjà affirmé pour éviter tout reproche qu'il ne ferait aucune coupe. Si la Cour le décide, les images seront diffusées jeudi dans leur intégralité et dans toutes les salles d'audience à Paris et à Nice.
Les précisions de Frédéric Michel.
Et à 7h07 à 7h06 sur Europe 1, on part en Italie avec le Grand Prix cet après-midi au circuit de Monza qui fête son 100e anniversaire.
125 000 spectateurs sont attendus, majoritairement acquis à la cause Ferrari. Et pour l'occasion, c'est d'ailleurs Charles Leclerc qui partira en pole position, Christopher Filhoc.
Exactement, le pilote Ferrari s'est vu tout simplement pousser des ailes sur les terres de son écurie, comme en 2019, le Monégasque a signé le meilleur temps des qualifications pour s'offrir la 17e pole position de sa carrière. Largué pourtant dans la course au titre à 109 points de Max Verstappen, Charles Leclerc est en position de remporter une première victoire depuis, écoutez bien, le Grand Prix d'Autriche. C'était le 10 juillet dernier. De quoi rendre le sourire à Ferrari en difficulté ces derniers temps et qui célèbre ce week-end son 75e anniversaire en tant que constructeur. L'écurie italienne a d'ailleurs décidé de mettre quelques touches de jaune sur sa monoplace, habituellement rouge, une manière de rendre hommage à ses couleurs d'origine. Et puis pour le reste, George Russell partira deuxième. Belle performance du français Pierre Gasly qui s'élancera à la 5e place. Hamilton, victime de pénalité, partira en fond de grille, tout comme Carlos Sainz. Max Verstappen, victime de pénalité également, partira 7e. Ce qui d'ailleurs ne l'empêchera sûrement pas d'être un prétendant à la victoire finale puisque le circuit est très propice au dépassement avec ses longues lignes droites. Voilà en tout cas pour le décor. Le départ du Grand Prix est à 15h.
Et puis à l'US Open, Iga Swiatek s'est offert un troisième grand chelem à 21 ans. La Polonaise est numéro 1 mondiale, a dominé 11 jabeurs, 6-2, 7-5.
Merci Clotilde, votre prochain journal, c'est tout à l'heure à 8h. Valérie Darmon, on est gâtés, hein, c'est ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui.
Oh que oui, dès la mi-journée. Il faut quand même patienter sur les régions nord, mais après, c'est vraiment un dimanche estival qui s'annonce. Alors c'est vrai que ce matin, de la Normandie, au nord du bassin parisien, Hauts-de-France, jusqu'au Grand Est, on a les nuages bas qui gâche un petit peu l'ambiance. Prudence d'ailleurs sur ces régions si vous circulez à cause des brouillards qui peuvent fortement réduire la visibilité sur les routes. Mais au fil de la journée, le ciel qui s'éclaircit sous un soleil généreux et votre mercure qui affiche 20 à 22 près des frontières belges et allemandes, 23 à 25 de Paris à la Normandie. Le vent qui tourne au sud jusqu'au sud-est, faisant nettement remonter les températures au sud, surtout en Nouvelle-Aquitaine et sur l'arc atlantique ce dimanche après-midi, avec des pics à 35 qui seront atteints au pied des Pyrénées. Le nord-est qui va conserver des valeurs de saison, alors que dans le sud-ouest, on va se situer 6 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison.
Merci Valérie, on se donne rendez-vous à 7h30. À suivre, je reçois Sir Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France de 2012 à 2016. Quelle place sur la scène internationale pour le nouveau roi Charles III ? Il nous expliquera tout ça tout de suite.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Nous continuons à parler de la succession qui s'organise en Angleterre après la mort jeudi de la reine Elisabeth II. Charles III lui succédera donc prochainement sur le trône. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur Europe 1 Sir Peter Ricketts. Bonjour monsieur l'ambassadeur.
Bonjour madame.
Alors vous étiez en poste vous à Paris entre 2012 et 2016. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de l'avenir de la royauté de Charles III dans un instant. Mais avant cela j'aimerais quand même qu'on revienne sur la reine Elisabeth. Vous l'avez évidemment côtoyée. Quel genre de relation entreteniez-vous avec elle ?
Mais j'avais le grand privilège d'accueillir la reine pour la visite d'État en 2014, quand elle a passé deux nuits à la résidence de l'ambassadeur. Alors j'avais la reine chez moi, qui m'a donné l'occasion de la connaître un peu mieux. Je l'ai connue aussi, secrétaire générale à notre ministère des Affaires étrangères. J'étais avec elle quand les ambassadeurs présentaient leurs lettres de créance. Alors, je le connaissais personnellement, jamais d'une manière très rapprochée, bien sûr, le souverain a toujours un brin de mystère, Mais c'était une grande dame qui avait une énorme capacité de mettre les gens à leur aise, de les parler simplement, un brin d'humour.
Ah, de l'humour, hein, oui, on connaît ça d'elle.
Toujours. Et une curiosité aussi. Elle était vraiment curieuse de la vie des autres, de comprendre ce que les gens faisaient, leur point de vue. Et c'est ça qui donnait à tous ces contacts humains une fraîcheur, une spontanéité que tout le monde ressentait, je pense.
Et c'est même pour cela que ça provoque une telle onde de choc dans le monde entier, même si effectivement c'était une femme très âgée, donc on s'attendait à un départ quand même ces derniers temps.
Oui, ça a été un point fixe, un repère pour nous tous, au Royaume-Uni, dans le Commonwealth, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Je suis très frappé par les réactions très émues en France aussi, très profondes. C'était quelqu'un de stabilité, de continuité, qui représentait des valeurs, peut-être un peu de la génération précédente, mais les gens appréciaient et les gens avaient un peu l'impression de connaître la reine, même si on ne l'a jamais rencontrée, à cause de ces images qui faisaient partie de notre vie.
Alors, 70 ans de règne, est-ce que vous diriez qu'elle est témoin de l'histoire ou qu'elle est l'histoire ?
Elle était acteur de l'histoire. En 2014, dans les cérémonies de D-Day, on a projeté un film devant les chefs d'État et de gouvernement et il y avait des archives de la reine en uniforme en 44. Alors, la reine a vécu, elle a connu toutes les grandes personnalités de son temps, elle recevait tout le monde. Alors, quand on rencontrait la reine, on avait un peu l'impression de rencontrer quelqu'un venu de l'histoire et aussi qui a participé et qui avait un regard très vif sur tout ce qui se passait pendant les 50 dernières années.
Alors désormais, vous avez un roi, Charles III, déjà assez populaire, imprégné de la fonction. C'est ce qui montre d'étonner de son discours un petit peu auquel on a assisté. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ouais, j'ai trouvé qu'il a fait deux choses en même temps. Il a fait l'adieu d'un fils à sa mère, d'une manière très personnelle, très appuyée. Il a dressé un portrait de sa mère. Mais aussi, c'était le nouveau roi qui parlait pour la première fois à son peuple. Et il n'a pas manqué de marquer quelques points. Il a fait comprendre qu'il a compris qu'il ne peut pas poursuivre ses causes qui sont très chères à lui, dans la même manière d'être souverain, il doit être neutre. Il est le défendeur de l'Église anglicane, les principes constitutionnels du pays. Alors, il y avait aussi un côté constitutionnel et un côté très, très personnel d'un fils. Et c'était, ça faisait remarquer que c'est un drame personnel aussi.
Bien sûr,
derrière
il perd sa
mère. Le protocole du décès d'un souverain.
Alors, vous le rappeliez, Charles III est un avant-gardiste. Alors ça, c'était à l'époque où il était le prince Charles. Ça fait des années qu'il travaille, qu'il alerte sur l'état de la planète, notamment. Il s'est même montré assez critique vis-à-vis des chefs d'État récemment. Vous le disiez, il ne pourra plus porter cette parole désormais. C'est la limite de la fonction royale ?
Oui, le prince Charles a toujours été un peu au-devant de son temps, avec ses passions. Sa passion pour l'écologie, l'environnement, qui il y a 30 ans avait un côté un petit peu bizarre. Les gens se moquaient un peu de lui. Maintenant, il est absolument dans l'air du temps. Et je ne suis sûr qu'il va continuer à croire dans ses grandes causes. La diversité culturelle aussi, il est très passionné. Mais il doit être beaucoup plus prudent dans l'expression publique de ça. C'est un homme très intelligent, il y a bien compris ça, il ne s'arrêtera pas à être un fervent de ces causes-là, mais comme roi, il doit être prudent dans son expression.
Monsieur l'ambassadeur, comment le Commonwealth peut tenir sans Elisabeth II ? On voit que les Australiens, les Jamaïcains veulent s'émanciper d'une certaine façon. Comment il va pouvoir gérer ça, Charles III ?
Oui, c'était une tendance dans le Commonwealth depuis des décennies que certains pays décident, et c'est leur droit absolument souverain, qu'ils ne veulent pas avoir le souverain d'Angleterre comme le roi ou la reine. Il est déjà accepté comme chef du Commonwealth, c'est déjà acté à la dernière réunion du sommet du Commonwealth, mais le lien affectif, il doit le créer maintenant. Il n'a jamais cessé de voyager dans le Commonwealth comme prince de Galles. Il est très bien connu. la reine Camilla aussi, mais c'est vrai que l'esprit républicain existe et va peut-être continuer à augmenter dans certains pays. Mais on peut aussi passer dans le Commonwealth d'un pays où le roi Charles est votre roi à un pays républicain qui est toujours dans le Commonwealth. Alors, c'est une évolution comme dans toutes les institutions, mais je pense que Charles est très bien accepté dans la plupart du Commonwealth.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Sir Peter Ricketts. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous avez publié en 2022, cette année. Alors, je vais essayer de le prononcer convenablement. Hard Choices, The Making and Unmaking of Global Britain. C'est chez Atlantic Books. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur Europe 1.
Merci, madame. Un grand plaisir.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et à 7h18 sur Europe 1, nous retrouvons l'info express de Clotilde Dumay.
La terre a tremblé en Alsace. Un séisme de magnitude 4,8 a été enregistré hier en fin d'après-midi. Il a été ressenti à Strasbourg, Mulhouse et en Suisse, mais aucun dégât important n'a été constaté. Dans l'océan Pacifique, un autre séisme de magnitude 7,6 cette fois a frappé l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'alerte tsunami a été levée, mais des coupures de courant et des dégâts ont été signalés. Le secrétaire général des Nations Unies dit n'avoir jamais vu un carnage climatique de cette ampleur. Antonio Guterres était en visite au Pakistan où près de 1400 personnes sont mortes depuis juin dans des inondations causées par la mousson. Le centre gouvernemental d'aide aux victimes a estimé le coût provisoire de cette catastrophe à plus de 30 milliards de dollars. Antonio Guterres appelle les pays développés à venir en aide au Pakistan et à ne plus investir dans les énergies fossiles. Ils ont frôlé l'élimination. Les Bleus qualifiés in extremis en quart de finale de l'Euro de basket. Ils ont battu la Turquie 87-86 après les prolongations. En rugby, deuxième victoire en deux journées du top 14 pour La Rochelle qui prend la tête du classement. La victoire aussi de Montpellier à domicile face à Bordeaux-Bègles. Et puis à la Mostra de Venise, le Lion d'or a été décerné à Laura Poitras pour All the Beauty and the Bloodshed, un documentaire sur la crise des opiacés aux États-Unis.
Merci Clotilde. Dans un instant, Mathieu Alterman et Sam Marotte, les plagiats musicaux, sont de retour sur Europe 1. Merci de commencer la journée avec nous.
Europe Matin Weekend.
Lénaïc Monnier.
Mathieu Alterman, comme chaque dimanche sur Europe 1, vous allez revenir dans votre exercice préféré. Je vous sens l'œil taquin ce matin. Plagiat musicaux, le retour de la revanche.
Mais comme moi, Lénaïc, vous êtes une sadique qui aimait que je dévoile à l'antenne les plagiats les plus honteux de l'histoire de la musique. Comme moi, chère auditrice et auditeur, vous allez les écouter avec délectation. Oh oui, il est bon de mettre de la lumière sur ces vols souvent honteux et rarement de l'ordre de la coïncidence.
C'est pas joli, joli de voir votre plaisir à dénoncer votre prochain, mais c'est quand même rigolo à voir.
Allons, vous adorez cette thématique, vous me la réclamez depuis des semaines.
J'avoue, j'avoue.
Alors, top départ, Chantal Goya a un bon copain, c'est Tintin. Pourquoi pas Chantal ? Mais son compositeur et mari, Jean-Jacques Debout, lui, il a quatre copains et ce sont les Beatles qu'il copie allègrement et leur Maxwell Silver Hammer que voici. Et oui, c'est la même mélodie. Et sinon, Deep Purple, vous vous souvenez ?
Bah, évidemment, le hard rock des années 70, Smoke on the Water, ce slow incroyable.
Ce slow incroyable, on l'écoute, c'est Child in Time en 1970. C'est sublime, certes, mais c'est totalement pompé sur une chanson sortie un an auparavant, Bombay Calling, du groupe It's a Beautiful Day. Faites attention, c'est troublant.
Mais ce qui est complètement dingue, c'est de copier des chansons sorties aussi peu de temps avant, en fait.
Plus c'est gros et plus ça passe. 1976, Joe Dassin interprète « À toi », dont voici l'introduction. Deux ans plus tard, Jane Birkin sort un beau succès avec « Ex-fan des 60s », dont l'introduction est la même, juste un peu accélérée.
C'est dingue. Ils sont pas foulés quand même.
Et tout le monde n'y a vu que du feu. Mais mon préféré du jour arrive enfin. Benjamin Biolay sort un nouvel album, le single « Rends l'amour » est fréquemment diffusé sur les ondes, écoutez-le.
Mais rends l'amour que je t'avais prêté.
Ça ne vous rappelle rien ? Alors évidemment, c'est difficile à trouver puisque le chanteur explique en interview être influencé par le rock indépendant anglais, le punk new-yorkais ou encore Maurice Ravel. Eh bien, c'est un copier-coller de « Roulement de tambour » David et Jonathan. Et on écoute encore un petit peu Benjamin pour se rendre compte.
Mais bon.
Ah oui, très punk new-yorkais. Sur cette cascade de rire diabolique, je vous souhaite un bon dimanche.
On va plus jamais pouvoir l'inviter, Benjamin Biolay. Merci Mathieu. Europe 1. Et à 7h25, on reste dans l'univers musical sur Europe 1. Bonjour Fabrice Laffitte.
Bonjour Lénaïque,
alors,
bonjour à tous.
On va revenir aujourd'hui avec Poupée de cire, poupée de son, que France Gall avait représenté le Luxembourg à l'Eurovision de la chanson. Hein, c'était à Naples le 20 mars 1965.
Le texte et la musique sont signés par le compositeur en vogue du moment, Serge Gainsbourg. Enfin, pour être honnête, concernant la musique, Serge Gainsbourg s'inspire fortement du quatrième mouvement Prestissimo de la sonate pour piano numéro 1, opus 2, composée par Ludwig van Beethoven en 1795. D'ailleurs, je vous laisse écouter ces quelques notes pour le constater par vous-même. Et c'est vrai que Gainsbourg, au cours de sa carrière, sera l'auteur de plusieurs emprunts musicaux. Serge Gainsbourg dépose ce morceau à la SACEM le 18 février 1965.
Fabrice, quelques heures avant la finale, France Gall, morte de trac, a du mal à se concentrer sur l'interprétation de sa chanson.
Et devant sa piètre prestation, elle est même huée par les musiciens lors de la répétition. Peu importe, en coulisses, Serge Gainsbourg l'encourage. Magie du spectacle et de l'adrénaline, devant 150 millions de spectateurs, France Gall remporte haut la main ce concours. C'est la seconde victoire du Luxembourg dans cette compétition. Folle de joie, elle appelle aussitôt sortie de scène son fiancé, un certain Claude François, qui ne répond pas au téléphone. Le lendemain, de retour à Paris, elle trouve ses affaires sur le palier de l'appartement. Claude François la quitte, jaloux du succès de France. Le 45 tours s'écoule à plus de 11 millions d'exemplaires. Une société de gadgets va même jusqu'à fabriquer des porte-clés à l'effigie de France Gall en minuscules poupées de vinyle. Quant à Serge Gainsbourg, il touche 450 000 francs de l'époque, l'équivalent de 614 500 euros de droits d'auteur grâce à ce succès.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son.
Poupée de cire, poupée de son, 1965. Merci Fabrice, bon dimanche.
Bon dimanche.
Vous restez bien sur Europe 1. Clément Barguin arrive pour le journal dans un instant.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Et à 7h30, le journal vous est présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les funérailles d'Elisabeth II ont lieu le 19 septembre. C'est un méticuleux protocole qui se met en place.
La difficile reconquête d'Éric Zemmour, l'ancien candidat à la présidentielle, tente de ranimer ses troupes lors des premières universités d'été du parti.
Depuis plusieurs jours, les contre-offensives ukrainiennes se multiplient, les Russes reculent, une trentaine de localités ont été libérées. Et puis en football, Marseille se rassure face à Lille en s'imposant 2-1, de quoi être confiant pour la prochaine rencontre en Ligue des Champions. Ce sera face à Francfort.
Au programme de la prochaine demi-heure, la une du JDD consacrée bien évidemment au roi Charles III. Dans les petits tracas du quotidien, on vous parle ce matin de contrats de gaz et de tickets resto. Et puis juste avant le journal de 8h, la chronique immobilier, Christophe Bordet nous dira comment on peut baisser sa facture quand on a un chauffage collectif. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Des brouillards et des nuages bas nombreux ce matin au nord de la Loire avant le retour du soleil sur l'ensemble du pays et de fortes chaleurs dans le sud-ouest jusqu'à 35 cet après-midi en Aquitaine.
Et on vous retrouve à la fin du journal. On connaît donc désormais, Clément, la date des funérailles de la reine Elisabeth II. Elles auront lieu dans un peu plus d'une semaine.
Ouais, c'est le lundi 19 septembre que le Royaume-Uni s'arrêtera le temps d'une journée pour un dernier au revoir à la reine Elisabeth II. Des dirigeants et des personnalités du monde entier sont attendus pour cette cérémonie qui aura lieu à l'abbaye de Westminster à Londres. Anaïs Cordoba, que va-t-il se passer jusqu'au jour de l'enterrement ?
Eh bien, le lendemain de son arrivée à Londres, le cercueil de la reine sera mené de Buckingham au palais de Westminster par une procession. La famille royale, des employés proches de la reine et quelques militaires suivront le cortège qui sera rythmé par des tirs de canon et les cloches de Big Ben. Puis, le cercueil sera exposé à Westminster Hall pendant 4 jours sur un catafalque drapé de pourpre et veillé par des gardes. Le public pourra venir s'y recueillir 24 heures sur 24 et on attend des centaines de milliers de personnes. Parallèlement, Charles III se rendra en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, où il participera à des cérémonies d'hommage pour sa mère avant les funérailles d'État le 19 septembre. Ce jour-là, une immense procession emmènera le cercueil de la reine à l'abbaye de Westminster pour le service funéraire. Enfin, il y aura un dernier voyage pour Windsor, où Elisabeth II sera inhumée aux côtés de son époux, le prince Philippe, de sa sœur et de ses parents dans la chapelle Saint-Georges.
Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1. Emmanuel Macron s'est entretenu pour la première fois avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss. Le chef de l'État a de nouveau adressé ses condoléances. Il a aussi réitéré sa volonté de coopérer sur les prix de l'énergie et le soutien apporté à l'Ukraine.
Lui tente de s'écrire un avenir politique. Avec son mouvement Reconquête, Éric Zemmour fait sa rentrée.
Affaibli par ses défaites aux élections présidentielles et législatives, Éric Zemmour réunit ses partisans dans le Var pour les universités d'été de son mouvement. Il doit aujourd'hui tenir un grand meeting. Victor Chabert, on peut dire que c'est une rentrée en demi-teinte.
Oui, plusieurs milliers de militants attendus cet après-midi dans le Var pour écouter Éric Zemmour. Il doit prononcer un discours tourné vers l'avenir, dit son entourage. Objectif, donner les grandes impulsions du mouvement. Le tout jeune parti vient de terminer son premier congrès avec de nouveaux statuts et une équipe resserrée. Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay sont les 3 nouveaux vice-présidents. À leur côté, au sein du bureau exécutif, Stanislas Rigaud, le président de Génération Z et la stratège et compagne d'Éric Zemmour, Sarah Gnaf. Malgré plusieurs défections dans l'été et les difficiles résultats des élections législatives, le parti d'Éric Zemmour mise désormais sur la structuration. Mais sans échéance électorale avant plusieurs années, cela va être difficile d'être attractif pour Reconquête, surtout quand le Rassemblement national de Marine Le Pen, si souvent critiqué par l'ex-candidat, a réussi à faire élire 89 députés et s'apprête vraisemblablement à élire à sa tête Jordan Bardella, un jeune président de 26 ans.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Les Gilets jaunes avaient appelé sur les réseaux sociaux à des rassemblements à Paris dans le cadre d'une opération Septembre Noir. Plusieurs rassemblements se sont tenus hier dans les rues de la capitale. 103 personnes ont été interpellées, dont 93 pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations.
7h35 sur Europe 1 et la contre-offensive ukrainienne. Elle gagne du terrain sur le front sud et le front nord-est.
En quelques jours seulement, les Ukrainiens ont repris plus de 2000 km de territoire, selon le président Volodymyr Zelensky. Une avancée à laquelle les Russes ne s'attendaient visiblement pas, Alexandra Gégy.
Oui, c'est une surprise pour tout le monde, y compris pour des dirigeants pro-russes qui reconnaissent même une situation difficile. Des soldats sont contraints de se retirer de plusieurs zones et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'en est félicité dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
Ces derniers jours, l'armée russe nous montre ce qu'elle a de mieux, son dos. Après tout, c'est un bon choix pour eux que de fuir.
Une avancée significative pour les forces ukrainiennes et une situation rendue possible en exploitant une faiblesse dans le dispositif de défense russe, selon le général Jérôme Pellistrandi.
La faiblesse observée a été faite au moyen de renseignements qui ont constaté que les lignes de défense russes dans cette région n'étaient pas très solides, avec des unités de second rang, c'est-à-dire manque de soldats russes. C'est Kiev qui a désormais l'initiative et les Russes sont sur la défensive.
De son côté, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir retiré ses forces dans les régions de Balaklia et Izium à l'est pour renforcer les efforts plus au sud, autour de Donetsk.
Les détails d'Alexandra Gégy pour Europe 1. Après les récentes inondations survenues au Pakistan, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu sur place. Antonio Guterres affirme n'avoir jamais vu de carnage climatique de cette ampleur. 1400 personnes sont mortes depuis juin dans ce pays meurtri par d'importantes pluies de mousson.
Clément, on termine votre journal avec du sport. Marseille conserve sa place de dauphin dans le championnat de Ligue 1.
Oui, après la victoire 2-1 hier au Vélodrome face à Lille, les Marseillais se rassurent à quelques jours de la réception de Francfort en Ligue des Champions. Le milieu de terrain marseillais, Matteo Guendouzi, se dit optimiste.
Depuis le début de saison, on n'a pas concédé beaucoup de buts en Ligue 1, donc c'est vraiment très intéressant. On a réussi à mettre quand même beaucoup d'intensité encore ce soir. On est allé gratter pas mal de ballons hauts et voilà, je trouve qu'on fait un très bon début de saison. Il y a vraiment de choses très intéressantes. Même avec la défaite en Ligue des Champions contre Tottenham, il y a eu une très bonne première mi-temps. Donc on sait aussi qu'on est capable de faire de très bonnes choses contre de très grandes équipes. Donc voilà, il y a vraiment de très bonnes choses pour la suite des championnats. On a quand même un très bel effectif cette saison. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir enchaîner beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité comme on l'a fait sur les matchs depuis le début de saison.
Matteo Guendouzi au micro Europe 1 de Stéphane Burgat. Et puis toujours en Ligue 1, Paris conserve la tête du classement après sa victoire difficile, mais sa victoire quand même face à Brest, 1-0.
Merci Clément Barguin, à tout à l'heure. Valérie Darmon, journée estivale.
Effectivement, vous profitez d'un temps magnifique du sud-ouest aux côtes sud de la Bretagne jusqu'aux Alpes et en Méditerranée en passant par le Massif central et le centre-Val de Loire. Le beau temps qui va s'imposer aussi sur le nord, qui ne va pas rester en reste après la dissipation des brumes de ce matin. Les températures justement du matin qui vont osciller entre 9 dans le centre de la Bretagne et 17 en Roussillon et aux Pays-Bas, qui sont un petit peu frisquées, tandis que les maximales vont s'envoler en Nouvelle-Aquitaine avec plus de 35 qui seront atteints avec peut-être des records cet après-midi. En tout cas, on va les friser. Et une fourchette des valeurs entre 21 à Boulogne-sur-Mer et 35 justement à Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Et bonjour Jérôme Béglé.
Bonjour Léna Higue.
Alors vous êtes directeur général de la rédaction du journal du dimanche et ce matin, évidemment, à la une, Charles III, le nouveau roi d'Angleterre.
Oui, passé la légitime émotion consécutive à la disparition d'Elisabeth II, il est temps de se familiariser avec son fils aîné, Charles, 73 ans, qui est officiellement devenu roi hier et qui aura la lourde tâche de succéder à une souveraine adorée de tout un peuple et de précéder un fils, le prince William aujourd'hui, dont on dit le plus grand bien. Pour ses premiers pas de monarque, Charles a fait forte impression. Son premier discours de roi fut simple et émouvant. Il n'a commis aucun impair. Nous brossons dans le journal du dimanche un portrait de lui, fait de nombreux témoignages et de souvenirs. Mais plus que ses premiers pas, le monde découvre l'extraordinaire beauté, la simplicité et l'émotion des cérémonies consécutives à la mort de la reine et à l'accession au trône de son fils. Rien d'ampoulé, rien de vulgaire, rien de ringard, rien de commun. On oscille entre le beau et l'émouvant, parfois entre l'austère et le religieux. Le roi ou la reine d'Angleterre et du Commonwealth, s'étant également chef de l'église anglicane, ils n'hésitent pas à revendiquer cette religion, à l'intégrer dans leurs discours et dans le protocole qui guide leurs faits et gestes. Autant de particularités cultivées par la Grande-Bretagne dans un monde de plus en plus sceptique vis-à-vis de la religion catholique.
Alors Jérôme Béglé, vous publiez également cette semaine une enquête sur des dérives sexuelles et financières du bouddhisme.
Oui, deux journalistes publient la semaine prochaine un livre sur le bouddhisme tibétain. Ils ont enquêté pendant 10 ans et ils mettent au jour des pratiques mêlant à la fois détournement de fonds, sévices corporels, viols et violences en tout genre. Et loin d'être des cas isolés, les témoignages qu'ils ont recueillis sont multiples et montrent qu'il s'agit d'un système bien rodé. Le maître ne fera pas au hasard, c'est pour progresser sur la voie spirituelle et voilà comment la religion, cette religion, justifie un certain nombre de débords. Vous lirez également dans le JDD le rôle très trouble d'Dalai Lama et le comportement très étrange également de Mathieu Ricard. Lorsque les auteurs du livre « Bouddhisme, la loi du silence » sont interrogés, ils l'ont confronté aux témoignages dont ils disposaient.
Merci Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Il est 7h40. Dans un instant, on retrouve Valérie Darmon et Roland Pérez. Ils nous délivrent leurs conseils. Si vous avez une question de droit ou un litige à gérer, ils seront là.
Réveillez-vous.
Informez-vous.
Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Ça vous concerne comme chaque dimanche avec Roland Pérez et Valérie Darmon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
On va commencer par vous, Roland, cette fois-ci. Deux questions d'actualité qui concernent précisément beaucoup de nos compatriotes. La PMA, d'abord, qui fait sa révolution. On va savoir, vous allez nous dire pourquoi. Et puis les tickets resto qui viennent au secours du pouvoir d'achat. Vous allez aussi nous expliquer comment. Mais commençons par la procréation médicalement assistée qui vient d'être autorisée pour les couples de femmes et femmes seules. Mais ça, ce n'est pas la révolution dont vous nous parlez ce matin.
Oui, la PMA ouverte aux femmes seules ou en couple, c'est plutôt une avancée, Lénaïque. Mais ce qui est bouleversé, c'est que la loi de bioéthique du 2 août 2022 a prévu également de lever l'anonymat des donneurs de gamètes, vous savez, les spermatozoïdes et les ovocytes, si les enfants nés de PMA à leur majorité demandent à connaître l'identité du donneur. Ça rappelle, vous savez, le film de Ken Scott, Starbuck, où un Canadien s'est retrouvé assigné en reconnaissance de paternité par plus de 500 enfants. C'était d'ailleurs une vraie histoire.
Alors, c'est une triple révolution pour les parents qui ont recours, les enfants à naître et les donneurs. Comment ça va se mettre en pratique?
Alors, depuis le 1er septembre, les donneurs devront préalablement accepter que leur identité soit révélée et pas que leur âge, leur santé au moment du don, la situation familiale et professionnelle, les caractéristiques physiques et même les motivations qui les ont amenés à faire ce don. Je précise, Lénaïque, que le don reste gratuit et bien sûr volontaire et c'est le ministère de la Santé qui va chapeauter tout cela via une commission d'accès à ces données qui seront collectées dans un registre.
Et les parents aussi, Roland, auront accès à ces données dorénavant ?
Absolument pas. Les parents ne connaîtront toujours pas l'identité du donneur, heureusement, au moment de la conception et vice-versa.
Alors, autre précision, Roland, les donneurs ne se verront reconnaître aucun droit sur les enfants, j'imagine, et les enfants ne pourront pas prétendre à une quelconque filiation également.
Oui, effectivement, aucune filiation ne sera possible. Et j'oubliais de dire d'ailleurs que pour tous les dons et gamètes avant le 1er septembre, les donneurs resteront, eux, anonymes.
Alors, on va passer à la deuxième question du jour. Là aussi, ça nous intéresse. Les tickets resto qui viennent au secours de notre pouvoir d'achat.
Décidément, les parlementaires ont bien travaillé pendant le mois d'août parce qu'une loi a élargi l'utilisation des tickets restaurants à l'achat, non pas seulement de plats cuisinés, de repas, de salades préparées et de sandwichs. Là, vous allez pouvoir cuisiner enfin pour moi toutes les deux, puisque désormais, la plupart des courses alimentaires pourront être réglées grâce aux tickets restaurants fournis aux salariés par leur employeur. On pense notamment aux produits de première nécessité comme les farines, les pâtes, le riz, les œufs, les poissons, la viande, les produits laitiers et bien sûr les légumes et les fruits.
Donc dans les supermarchés, c'est bon, on peut les utiliser. Et puis chez les traiteurs, les boulangers, les épiceries, les magasins de fruits et légumes aussi, j'imagine. Et d'ailleurs, les supermarchés, les commerçants sont-ils dans l'obligation de les accepter, Roland ?
Et non, aucune obligation pour eux. Ils peuvent fixer la liste des produits payables ou non au moyen des tickets restaurants.
Et on reste sur une base de 19 euros par jour ?
Alors, au moment où je vous parle, il va y avoir un décret qui va être publié sous peu. Il va porter à 25 euros le plafond par jour. Et par jour, hors week-end et jours fériés.
Alors Roland, merci beaucoup. Des économies, on en fait aussi avec vous. Valérie, doit-on changer son contrat de gaz et lequel est surtout le plus avantageux en ce moment ?
Alors, la situation qui paraît idéale pour nous consommateurs, c'est d'avoir souscrit une offre fixe avant l'été. Alors, le tarif étant bloqué, il est censé ne pas bouger. Et si on souscrit un nouveau contrat à prix fixe, il sera forcément plus élevé, jusqu'à 3 fois plus cher. Bref, c'est la jungle, on est 6 millions dans ce cas. Alors, pour savoir s'il faut céder aux sirènes des fournisseurs, je reçois ce matin Elisabeth Chenet, journaliste à Que Choisir, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on répond aux sirènes des fournisseurs et est-ce qu'on change dans le cas où on a une offre fixe ?
Eh bien, tout dépend du prix de votre offre fixe, si vous voulez. Si vous avez une offre fixe qui n'est pas supérieure au tarif réglementé, il n'y a pas de souci. Sinon, ça peut coûter énormément cher. Donc, il faut vraiment vérifier par rapport au tarif réglementé, donc d'Engie, vous le trouvez facilement sur Internet et si c'est plus cher, vous changez. Alors, que prendre ? Actuellement, ce qu'il faut, c'est vraiment une offre à prix indexé. Pourquoi ? Parce que les offres à prix indexé sur le tarif réglementé bénéficient du bouclier tarifaire comme le tarif réglementé. C'est-à-dire qu'elles peuvent augmenter au même rythme, mais pas plus.
Alors justement, EDF enregistre un flux d'appels plus important que d'habitude parce que les concurrents sont incapables de maintenir une offre commerciale initiale. Si on veut changer de fournisseur, quel est le comparateur de prix le plus sérieux là aussi ? On a besoin de vos conseils.
Alors écoutez, il y a deux bons comparateurs de prix, c'est celui du médiateur national de l'énergie, Énergie Info, et puis celui de Que Choisir qui est sur notre site Que Choisir. Tous les autres ont des partenariats avec tel ou tel fournisseur, donc il faut vraiment s'en méfier.
Alors j'imagine Elisabeth que si on est un petit ou un gros consommateur, l'offre la plus avantageuse, c'est pas la même.
Écoutez, si on est un grand consommateur, si on est un professionnel, de toute façon, ce ne sont pas les offres grand public. Donc ça, je n'en parle pas. En revanche, actuellement, non. Actuellement, si vous voulez changer, il n'y a que deux offres qui sont au prix du tarif réglementé, c'est-à-dire en gaz acceptable. C'est celle de Total Énergie en prix indexé et celle d'Engie en prix indexé. Toutes les autres ont ou des abonnements beaucoup plus chers ou des prix du kilowattheure qui sont multipliés par 2,5, par 3, voire par 4.
Merci beaucoup Elisabeth Chenet, vous êtes journaliste à Que Choisir, spécialiste, on l'a bien compris, de ces questions énergétiques. Valérie, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura des aides accordées aux ménages les plus modestes ?
Alors oui, on a le chèque énergie qui existe déjà, c'est une aide ciblée pour ces ménages ménages modestes. Il est donné sous conditions de ressources. Chaque année, 5,8 millions de ménages le touchent. Et ceux qui ont bénéficié du chèque énergie en 2021 ont reçu en plus un chèque énergie exceptionnel de 100 euros versé en décembre 2021, pouvant être utilisé jusqu'au 31 mars 2023. Et le chèque énergie 2022 est envoyé automatiquement par courrier à partir du 30 mars. Et puis moi, j'ai une dernière question pour Roland. Si on se laisse convaincre par un fournisseur et qu'on n'est plus sûr du tout de son choix, est-ce qu'on a des recours?
Alors oui, vraiment, la loi est très très bien faite pour les consommateurs et les usagers d'ailleurs, parce que si vous prenez un abonnement en ligne, par téléphone ou par démarchage, évidemment, vous avez le délai de rétractation de 14 jours, ça s'applique, donc pas de difficulté. Et de toute façon, quel que soit le contrat, quel que soit le fournisseur d'énergie, à tout moment et sans préavis, vous pouvez résilier votre contrat. Vous n'aurez rien à payer, simplement, dès que vous recevez votre facture, vous faites la résiliation. Ce que vous faites d'abord, 24 heures avant, vous relevez votre index de consommation parce qu'on va vous le demander pour cette résiliation. Et rien de plus facile ensuite que de résilier.
Bon, bah on espère que c'est facile, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et vous restez sur Europe 1. Bienvenue chez vous, arrive.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h52, l'heure de retrouver Clément Barguin pour l'essentiel de l'actualité.
Les funérailles d'Elisabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster. Sa dépouille se trouve actuellement au château de Balmoral en Écosse. Elle doit être transférée dans la matinée à Édimbourg. Ils veulent plus d'autonomie et de liberté. Dans une tribune publiée sur le site du Journal du Dimanche, les présidents de région réclament une grande réforme de décentralisation. Selon eux, les élus locaux doivent disposer d'une responsabilité claire et exclusive. Un tremblement de terre de magnitude 4,8 secoue le nord-est de la France. L'épicentre a été localisé au sud de Mulhouse, du Bas-Rhin à l'Ain. Les secousses ont été ressenties hier en fin d'après-midi. L'armée ukrainienne reprend une trentaine de localités aux troupes russes dans le nord-est du pays. Une progression très nette et très rapide, reconnaît un responsable pro-russe. La Russie qui recule et regroupe ses forces près de Donetsk. Et puis le PSG reprend son trône de leader de la Ligue 1 après sa victoire poussive contre Brest, 1-0. Marseille conserve sa place de dauphin après s'être imposé face à Lille, 2-1.
Merci Clément Barguin. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Europe 1, ce sera le journal de 8h.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
L'actualité qui vous concerne sur le logement, sur le mobilier, comme chaque dimanche, un petit peu avant les infos de 8h, les trucs et astuces pour faire des économies d'énergie, puisque vous le savez, les prix explosent. On va faire un petit coup de projecteur ce matin avec les copropriétés et le chauffage collectif. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour amis propriétaires et locataires.
Chauffage collectif ou radiateur qui pourrait être moins bouillant que les factures cet automne.
Ah oui, absolument, c'est la grande inquiétude ça pour beaucoup de propriétaires et de locataires, parce que dans les copros avec chauffage collectif, votre facture est calculée en fonction du nombre de mètres carrés de votre appartement. Bon, c'est pas à la louche, évidemment, mais quand même, ça y ressemble un petit peu et vous payez un petit peu pour le voisin sans forcément le savoir.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça?
Bien, déjà, appliquer la loi. Demander au syndic, lors des assemblées générales de copropriété, d'installer des compteurs individuels dans les appartements. C'est obligatoire depuis 2020, mais l'application est très spartiate sur 4,5 millions de logements concernés. Seulement 1,5 million sont équipés.
Et pourtant, on le sait, c'est très utile. Ça ressemble à quoi?
Eh bien, écoutez, réponse tout de suite avec Laurent Sirex, qui est le président de la société Ista.
Dans les immeubles et dans les logements récents, ce sont des compteurs d'énergie thermique qui se mettent à l'entrée du logement. Et dans la plupart des copropriétés des immeubles anciens, ce sont des répartiteurs de frais de chauffage que l'on met sur chacun des radiateurs.
Et l'avantage donc est bien entendu économique.
En moyenne, quand vous équipez l'immeuble, l'ensemble de l'immeuble fait 15% d'économie. Et ça peut aller jusqu'à 25% d'économie.
15 à 25%, ça représente par appartement en moyenne entre 150 et 250 euros d'économie, c'est pareil.
Oui, donc ça commence à compter, ça, pour dans le porte-monnaie, évidemment.
Surtout par les temps qui courent.
En revanche, ce n'est pas gratuit l'installation de ces compteurs, Christophe.
Évidemment non, mais c'est très abordable. Ce sont des abonnements de 3 euros par mois. Après, encore faut-il savoir lire le compteur. Oui. Pour cela, pour cela, Ista vous aide. Laurent Sirex.
Nous avons développé des solutions de type web qui permettent finalement de mesurer la consommation et de voir la consommation de l'ensemble de son logement, de la voir évoluer mois par mois. On peut aussi paramétrer un objectif de budget et recevoir des alertes si on le dépasse. Donc la technologie aujourd'hui et les investissements qui ont été portés par nos sociétés permettent justement de simplifier les choses parce que c'est l'intérêt.
Voilà les naïcs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit compteur et ça repart.
Et oui.
Hein, et pour en savoir plus, ista.fr.
FR,
voilà,
merci beaucoup.
Société qui installe les compteurs.
Merci Christophe Bordet, à la semaine prochaine. Vous restez sur Europe 1, les infos arrivent, à tout de suite.